This is your before and after story. Southeastern College can help you prepare for a secure and fulfilling career in the growing healthcare field. We offer a wide range of careers to choose from. So whether you want to be a medical assistant, medical billing and coding specialist, nurse, surgical technologist, or another healthcare career, we've got you covered. Become a vital part of a healthcare team and make a real difference. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started.
Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 1er juillet 2025 et c'est l'épisode 418. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je ne suis pas seul. Il est à la tech ce que le ventilateur en pleine nuit est à une chambre sous les toits, ce que le sorbet citron est à une terrasse brûlante et ce que le plongeon dans une piscine est à un après-midi à 38 degrés. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Eh ben, très bien, donc je suis rafraîchissant, mais pas suffisant pour changer fondamentalement la situation, on est bien.
Oui, bah, c'est... oui, mais quand même, tu fais du bien, sache-le. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que tu fais du bien. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont accepté de nous soutenir sur Patreon. Chantal, Mighty Geek, FX et Valérie Gerfaux. D'ailleurs, au passage, c'est Chantal qui a rajouté un petit commentaire sur Patreon. Elle a dit qu'elle a apprécié notamment l'épisode d'usage et elle a dit que c'est ce qui lui a donné l'envie de s'abonner. Ça l'a fait basculer. Ça devait faire un petit moment qu'elle y songeait. Et voilà, ça a achevé de la convaincre. Donc, merci beaucoup à toi, Chantal. Merci beaucoup aussi à vous qui contribuez à la notoriété du podcast avec Apple Podcast, Podcast Addict. N'hésitez pas à déposer des avis, évidemment. Et puis, vous pouvez, je vous le rappelle, retrouver l'intégralité des épisodes de Tech Café et toutes les notes sur techcafé.fr. Il y a vraiment tout qui est disponible, même les épisodes qui ne sont plus disponibles dans le flux, parce qu'en fait, on a un podcast qui est tellement vieux maintenant. On est tellement vieux, Guillaume. Voilà, on a un podcast trop ancien et en fait... On commence à être limité par la taille des flux de podcasts. Mais par contre, tous les épisodes sont dispo sur techcafé.fr, pas forcément dans votre app de podcast. Bon, il y en a quand même plusieurs centaines, voire un millier, donc il y a de quoi faire. Et puis, depuis la semaine dernière, je diffuse aussi alors une newsletter le dimanche matin. Mais évidemment, comme ma promesse était de l'envoyer le dimanche matin et que je l'envoyais finalement le samedi matin, j'ai eu un peu honte. Bon, vraiment, désormais, l'objectif, c'est que ça parte le dimanche matin. Le but, c'est vraiment d'avoir des résumés assez synthétiques des épisodes et puis quelques infos privilégiées quand ça a sa place. Alors, donc voilà, j'ai eu un souci dans la programmation, mais ça va s'arranger. N'hésitez pas à vous inscrire sur techcafé.fr. Et puis, bien évidemment, rendez-vous sur Discord pour discuter entre vous et avec nous de plein de sujets, de tech, évidemment, mais de plein d'autres sujets autour de la politique, même des livres, des séries. Plus spécifiquement, il y a un forum Apple pour les fanboys dont je fais partie. Et puis, bah, c'est génial parce qu'on a des interactions grâce à vous. Et ça, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, il y a MacGreg4000 qui a pris la parole sur Discord. Tu as retenu un petit peu sa prise de parole, Guillaume.
Oui, alors MacGreg4000 nous pose une question un peu provocatrice, mais qui finalement, c'est amusante en fait. J'ai voulu tester la blague un peu jusqu'au bout, quoi. Donc, il veut comparer finalement la productivité égale, enfin, bon, c'est moi qui dis la productivité égale, la consommation d'un humain et d'une IA. Et il se demande si finalement un humain ne serait pas aussi consommateur d'énergie qu'une IA à boulot équivalent. Alors, c'est assez marrant parce que ça renvoie à l'impact écologique des humains, parce qu'évidemment, il est loin d'être négligeable, hein, mais quantitativement, qu'en est-il ? C'est une question qui est super dure, évidemment.
C'est difficile.
Donc, j'ai essayé de faire ça semi-sérieux. C'est pas évident de prendre en compte, hein, mais bon, alors, on va se faire pour le fun une estimation d'eau mouillée. Après okay. Tout, Sam Altman nous a donné une consommation pour son GPT, hein, ça serait de 0,3 ouais. Watt-heure par requête. Donc, si on part de là, ça donnerait quoi à la louche ? Alors, si on estime qu'une IA actuelle pourrait avoir la même productivité qu'un humain pendant le même temps, ce qui est déjà très approximatif, parce que parfois elles sont beaucoup plus rapides, parfois elles sont beaucoup plus lentes, parfois elles sont juste connes, et donc il faut passer deux fois le temps à les relire ou les débugger. Bon.
Mais
bon,
admettons, ça rajoute du temps parfois.
Un employé IA par jour, donc à partir de machin, ce qu'a dit Sam Altman là, machin, c'est 8 heures de boulot à 0,3 watt-heure par requête, et disons qu'il en envoie un max, disons qu'il en envoie une chaque seconde pour faire large et simplifier au passage le calcul, donc ça ferait 28 800 secondes, hein, donc ça ferait en gros 8 640 watt-heure, donc à peu près 9 kilowatt-heure par jour.
Bon. D'accord.
Et un humain, alors, il consomme combien par jour ? Si on considère qu'il mange...
En tant qu'humain biologique en viande ou si on prend en compte ses outils ?
Alors, ben, justement, moi, je considère que l'humain. Que l'humain.
Ok.
Mais effectivement, il faudra aussi voir la consommation de son PC et tout. Mais bon.
Ouais, la partie en viande.
Puis déjà, l'humain. Alors, l'humain, c'est 2000 kilocalories. 2000 kilocalories, c'est 2,3 kWh. Donc, rien qu'on bouffe, c'est 2,3 kWh. Après, en France, en moyenne, chaque personne consomme à peu près 6 kWh d'électricité, d'après Engie. Donc, bon,
okay.
Alors, c'est pour le foyer. Enfin, bon, on va dire que c'est aussi pour le boulot. Enfin, tu vois, donc, à la limite, voilà. Donc, ça, c'est s'il consomme
pour exister,
en énergie
quoi.
Électrique. Donc, on est déjà à 8,3 kWh. Après, il y a les transports. Et alors, les transports, bah, c'est pas facile à évaluer. Ça dépend beaucoup des gens. Mais enfin, bon, d'après le journal du Net 2008, un Français consomme 2,26 litres d'essence par jour. Et avec un litre d'essence, un moteur produit entre 2 et 4 kWh, selon le rendement du moteur. Donc par jour, pour le transport, à la louche, on va dire 5 kWh. Quoi. Et donc, on en est autour de 13,3 kWh pour les 8 heures de travail effectif par jour. Sachant qu'il consomme ça, même quand il ne bosse pas, hein, c'est feignasse. Bon. Oui. Alors qu'une IA ne consomme à peu près que 9 kWh. Et bon, alors là, par contre, après, évidemment, il faudra compter les externalités parce que construire les voitures qu'il conduit, construire les maisons dans lesquelles il habite, tout ce qu'il y a dedans, puis faire pousser les légumes qu'il bouffe et faire pousser les cochons qu'il mange aussi. Hein, voilà,
pour ça fait beaucoup de dépendance et d'interdépendance.
Ouais. Voilà, ça fait énormément d'énergie et de ressources, donc c'est la consommation indirecte de l'humain de base, c'est quand même des externalités qu'il faudra prendre en compte. Mais là, par contre, ça devient vraiment très, très difficile. Et surtout qu'il faudra aussi prendre en compte les externalités des serveurs, parce que les serveurs, il faut les construire.
C'est vrai, bien sûr.
Consomme d'électricité, oui, mais bon. Ils ont une consommation indirecte très importante aussi, hein, en plein de choses. Donc bon, j'avais prévenu que ce serait pas facile et que ça allait être vraiment au doigt mouillé. Mais disons qu'en se limitant à la consommation directe sur 8 heures, on a avantage IA. Et en plus, elles peuvent travailler 24 heures sur 24. Donc ça veut dire qu'elles peuvent être trois fois plus productives qu'un humain en consommant du coup 27 kWh contre 40 kWh pour trois humains. Donc les IA sont en train de ruiner la planète ou est-ce que c'est les humains qui sont en train de ruiner la planète ? Alors, je pose ça de manière purement rhétorique, hein, comme question, évidemment. Mais pour sauver la planète, est-ce qu'il faut arrêter les IA ou est-ce qu'il faut mettre des capotes ? Sachant qu'on n'a pas compté le fait qu'un humain fait caca partout, tous les jours aussi. Hein, attention, et puis qu'il respire du CO2 directement. Voilà, les IA consomment de l'eau aussi, c'est vrai. Mais nous aussi, 2 à 3 litres par jour. Et puis après, on fait pipi et ça sent pas bon. Bon. Et puis, il faut nous climatiser la tête, à nous aussi, comme aux IA, pareil, surtout en ce moment.
Surtout en ce moment.
De toute façon, ces questions sont purement théoriques, hein, parce que de toute façon, on va avoir le pire de tous les scénarios. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup, beaucoup d'IA et toujours plus d'humains, à la fois.
Oui.
Comme ça, au moins, on n'a pas à faire de calculs compliqués.
Au moins, comme ça, on sait que c'est foutu. La question, elle n'est pas vite répondue, mais c'était intéressant de se prêter à l'exercice, effectivement, et d'arriver à comparer un petit peu l'énergie consommée. Donc, merci beaucoup à toi, en tout cas. MacGreg 4000 d'avoir contribué à aborder ce sujet. Tu n'étais pas le seul d'ailleurs dans cette discussion, mais c'est hyper intéressant. Un petit mot juste avant qu'on aborde les news de cet épisode et vous allez voir, on va parler justement de chaleur, on va parler de temps de travail en lien avec le développement des intelligences artificielles. On a plein de ces beaux sujets qu'on va pouvoir dérouler ensemble juste avant pour dire c'est le dernier épisode de la saison. Vous savez, hein, traditionnellement, j'ai tendance à composer une saison de Tech Café du début du mois de septembre, en tout cas fin mois d'août, jusqu'à la fin juin, début juillet, un peu comme les années scolaires finalement. Donc c'est les saisons de Tech Café, c'est la 11e saison qui se clôture dans son format classique, tel que vous l'aimez le plus, je pense, avec les chroniques et les préparations d'épisodes de Guillaume Poggiaspala. Il est fort probable que je ne vous laisse pas sans contenu dans Tech Café et de manière générale dans les podcasts cet été. Mais enfin, voilà, symboliquement, c'est un petit peu quand on amène, Guillaume, le cadeau à la maîtresse ou au maître en fin d'année scolaire, une plante, un tournesol, un paquet de chocolat, un marque-page personnalisé pour lui symboliser le fait que c'est la fin de l'année. On ne t'a pas apporté ce cadeau-là, Guillaume, mais j'imagine que beaucoup de nos auditeurs et auditrices auraient envie de te le témoigner. Écoute, merci pour avoir passé cette saison supplémentaire
d'ailleurs,
en notre compagnie.
D'ailleurs, si vous voulez envoyer des cactus ou des colliers de nouilles, envoyez-la à Guillaume. Voilà. On verra je les récupère.
Je t'enverrai les photos sur notre groupe de messagerie perso, puis tu me diras si tu veux que je te les transfère ou pas. Je ne suis pas sûr que l'impact écologique soit bon là-dedans. Mais enfin bon, écoutez, on est prêt à tout là-dessus. En tout cas, sans autre forme de procès, on va aborder les news essentielles et incontournables de cette semaine. Et vous l'avez compris, il fait horriblement chaud et ce n'est que le début. Justement, on peut faire le point sur la manière dont l'humanité créer sa précieuse énergie et il semble bien, Guillaume, que le renouvelable progresse même si tout n'est pas encore vert, très loin de là.
Ben oui, 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 voilà. Vous avez chaud? Vous êtes en train de vous transformer en yakitori? Eh ben écoutez, oui, enfin, si vous écoutez la semaine de l'apparition, vous avez sans doute très très chaud et il va falloir vous y habituer parce que... Alors, je vais essayer de dire ça le plus gentiment et de la manière la plus subtile et élégante possible. Mais disons que bon, les objectifs de la COP 21 de Paris se sont fait sodomiser à sec et ça va continuer à saigner. On est à plus 1,5 degré, c'est acté. En Europe, l'Europe de l'Ouest se réchauffe beaucoup plus vite que ce qu'on croyait. On est à plus de 2 degrés déjà. Et donc, nos émissions de CO2 là-dessus, eh ben, elles ont encore augmenté de 1% cette année. Voilà, donc autant vous dire que la neutralité carbone, je ne mettrai pas ma main coupée que je la verrai de mon vivant. Donc, votre appartement qui se transforme en cuivre vapeur, il va falloir s'y habituer. Et pourtant, il y a des quasi bonnes nouvelles dans le rapport. Hein. Le solaire et l'éolien, c'est les sources d'énergie dont le rôle s'accroît le plus vite. Alors, c'est 16% en combiné et la Chine est largement leader. Quoi. Donc, voilà, la Chine est largement leader sur l'éolien et le. Et je vais y arriver. L'éolien
les renouvelables.
Solaire. Voilà.
Voilà.
Donc, alors, d'ailleurs, elle représente à elle seule 57% des nouvelles capacités de ce type. Hein. Le souci, c'est que en fait, la demande en énergie mondiale a atteint un nouveau record avec une hausse de 2% et une hausse de 4% pour l'électricité seule. La demande pour l'électricité croît plus vite que toutes les autres, d'ailleurs. Hein. Il y a énormément de disparités. Donc, le monde voit arriver toujours plus d'énergie renouvelable, c'est vrai, mais les pays font ça en ordre totalement dispersé. Donc, il n'y a pas vraiment de transition, en fait. C'est le total bordel. C'est le renouvelable qui arrive, en fait, il sert à combler des besoins nouveaux et il ne remplace pas le fossile. Le fossile est toujours là et ça continue. La demande pour les combustibles fossiles a augmenté d'un peu plus d'1%. Avec d'énormes divergences géographiques. Dans les pays de l'OCDE, la demande en pétrole brut reste stable, voire en léger déclin. Les pays de l'OCDE, c'est les pays riches en gros, hein, l'Europe, les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Japon, etc. Et hors OCDE, la demande augmente, sauf en Chine où elle baisse de 2,2%. Par contre, le gaz, lui, il a un gros regain de popularité, hein, 2,5% de hausse, et la demande indienne pour le charbon augmente de 4%. Ce qui est astronomique, hein, parce que la demande indienne pour le charbon, elle surpasse la demande du Commonwealth, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale et de l'Europe combinées.
Donc, finaise.
C'est
massif.
Ah ouais, c'est massif. La Chine aligne les solutions renouvelables et à côté, on veut encore plus de charbon. Quoi. Encore aujourd'hui, hein, 60% de l'énergie mondiale est fossile et ça explique assez bien 4 années de record d'émissions de CO2 consécutives. Hein. Donc oui, les capacités de renouvelables accélèrent, mais la consommation mondiale accélère encore plus vite. Toutes les formes d'énergie voient leur demande augmenter, le nucléaire et l'hydroélectricité aussi, hein, d'ailleurs. Donc la transition, c'est très compliqué, d'autant qu'ici en Europe, on n'a plus en rond et que tout ce qui est considéré vaguement vert ou verdâtre est officiellement plus à la mode. Les États-Unis n'en ont plus rien à foutre, hein. Si les IA doivent sauver le monde, il faudra qu'elles commencent à se dépêcher un petit peu. Hein.
En sachant que le carbone, une fois dans l'air, il met 10 000 ans hein, pour s'évacuer de l'atmosphère, il est hyper stable. Donc, entre le moment où on va se réveiller et le moment où on agira, il y aura tellement de temps et de boulot à faire, de temps passé et de boulot à relever, que ça paraît effectivement inatteignable. On ne va peut-être pas être très enthousiaste sur le fond, hein, malgré tout, dans cet épisode.
Le CO2, il est dans l'atmosphère. Après, il peut être capté par les êtres vivants, enfin, par les plantes, quoi. Donc, ouais. Ça dépend des plantes qu'il y a. Et effectivement,
il faudrait arrêter d'envoyer du carbone.
Sinon, le CO2, effectivement, il est capté. Il y a des processus géologiques hein, qui permettent de le capter, mais qui sont très, très, très longs, effectivement. Je ne sais pas si c'est 1000 ans, je n'ai pas le chiffre, mais c'est vrai que c'est...
J'ai entendu ça aujourd'hui, effectivement, sur le fait que si on voulait espérer qu'il se barre lui-même de l'atmosphère, grosso modo, celui qu'on envoie aujourd'hui, il faudrait 10 000 ans. Ça me paraît long, 10 000 ans. Enfin, je ne sais pas, je ne me rends pas compte encore tout à fait, mais ça me paraît long. Guillaume, il n'y a pas que l'atmosphère chez les auditeurs et les auditrices ou dans mon studio qui est chaude. Il y a aussi les contenus adultes consommés en ligne. On en a parlé, un débranchement des sites pornographiques en France. Ils s'étaient auto-bloqués, ils sont revenus en attendant l'évolution de la législation en Europe. Alors, vous le savez, le nerf de la guerre, c'est de protéger évidemment les mineurs de ces contenus sans créer des solutions bancales ou dangereuses. On n'a pas trouvé la solution miracle, d'ailleurs, qui réponde à cette équation. Le débat sur l'accès au porno, c'est pas qu'en France, c'est aussi aux États-Unis.
Oui, puisqu'on évoque le pays du rêve américain aussi, celui de l'égalité des chances, de la liberté, n'est-ce pas ? Attendons-nous un petit peu, mais viteuf quand même, hein, sur une décision de justice qui renvoie à la Free Speech Coalition dans ses buts. C'est le lobby piloté par Pornhub, globalement, qui, comme en France, sont obligés dans plein d'États américains, je crois qu'il y en a au moins 19, dont le Texas, de vérifier l'âge des visiteurs. Donc, ils avaient fait appel auprès de la Cour suprême, qui vient de décider à une majorité de 6 contre 3 que la loi texane n'avait aucun rapport avec la liberté d'expression et que le Premier Amendement, c'était pas un problème, tout ça. Et qu'en gros, c'était pas pire que de montrer sa carte d'identité pour acheter de la bière au magasin, quoi. Aucune question sur la préservation de la vie privée, des données, tout ça, ça c'est pas un sujet. Et bien sûr, le vote s'est fait à 6 contre 3, et les 3 qui sont pas d'accord, c'est la minorité libérale de la Cour suprême qui est à majorité républicaine, surtout majorité conservatrice, à la botte de Donald Trump. Comme on l'a vu tout dernièrement, quand ces mêmes juges de la Cour suprême ont empêché les juges fédéraux de bloquer des décrets présidentiels, alors même que certains de ces décrets sont ouvertement inconstitutionnels d'ailleurs. On a donc une Cour de justice qui limite le pouvoir de la justice, c'est pas mal, c'était le dernier contre-pouvoir, étant donné que le Congrès est une larve informe et que le Sénat n'a absolument plus rien à dire. Trump a de moins en moins de contre-pouvoir, et comment dire, ça la fout mal pour un pays qui se considère comme le phare du monde libre. Mais bon, en tout cas, pour en revenir à Pornhub au Texas, il va donc rester sans doute inaccessible. Et pas que dans cet état. Et donc, il reste toujours la question en suspense quand même, qui moi me tourmente la nuit, c'est quoi le porno? Oui, j'ai des nuits. Bon. J'ai une chaude. Où ça commence et où ça s'arrête, en fait, le porno? Mm-hmm. Où ça s'arrête, ce qui est obscène, ce qui est, ouais. Comment on doit protéger les mineurs, jusqu'où, tu vois, qu'est-ce que c'est ce spectre-là? Bon, on avait évoqué un projet de loi anti-pornographie au sens très très large, en supplément, et qui allait sans doute pas passer, mais tu vois, petit à petit, les fenêtres d'Overton se dilatent, et bon, quand c'est bien dilaté, bon.
C'est beau, c'est bien amené à la dilatation de la fenêtre d'Overton, Guillaume. Et puis, de toute façon, on va rester aux États-Unis parce que pendant qu'on y est dans ce phare du monde libre, on va en profiter pour parler du smartphone qui était promis comme étant le premier à être fabriqué aux États-Unis, le Trump Phone. Une sacrée promesse sur laquelle on avait déjà relayé un paquet de réserves. Il semblerait plutôt que ce soit un smartphone chinois déguisé. Il y a du nouveau, Guillaume.
Oui, j'ai trouvé ça même assez curieux d'ailleurs, parce que Trump et toute sa clique, ils montent comme des arracheurs de dents en permanence. Tiens d'ailleurs, est-ce que c'est pas une expression désuète ça?
Mais bien sûr, bien sûr. Oui. Alors d'où ça vient, menteur comme un arracheur?
En fait, elle est assez explicite, parce que c'est un truc assez ancien, comme la pratique des arracheurs de dents. Les arracheurs de dents, c'est les premiers dentistes en quelque sorte, qui arrachaient les dents aux gens dans la rue et qui leur disaient « Non, mais ça fait pas mal, t'inquiète, ça fait pas mal ». D'ailleurs, t'entends les cris? Non, non, tu les entends pas, parce qu'en général, ils mettaient de la musique super forte autour pour couvrir les cris des autres victimes.
Malin,
et
malin, oui, malin. Du hard rock, pratique.
Et le mensonge des arracheurs de dents, ça existait déjà au moins depuis le XVIe siècle. On a des textes qui attestent. Et bon, Trump étant menteur professionnel à ce niveau-là, moi, je suis assez surpris qu'ils aient finalement arrêté d'affirmer que le Trump Phone était fabriqué aux États-Unis. Ouais. Parce qu'ils ont arrêté, quoi. Alors, évidemment, c'était pas crédible, c'était même facilement vérifiable. Et je veux dire, comme les migrants qui mangent des chiens, ça n'a jamais été démenti. Enfin bon, est-ce que ça a posé le moindre problème, les migrants? Non, bon, voilà. Mais là, non, ils ont remplacé, donc, fait aux États-Unis, pour le Trump Phone, par un bullshit d'une banalité pathétique, puisque, je cite, c'est conçu avec les valeurs américaines à l'esprit. Qui sont quoi? Je ne sais pas, les valeurs américaines, c'est quoi en fait? C'est travail, famille...
Le phare de la liberté, tu le disais.
Ouais, non, ouais, mais les valeurs, c'est quoi? C'est travail, famille, steak et SUV, je ne sais pas. C'est quoi.
Ah, ça, oui, ça marche.
Il y a aussi venu à la vie aux États-Unis. Il n'est pas seul, être venu à la vie aux États-Unis, mais en tout cas, ça ne les empêchera pas, certains gamins qui sont venus à la vie aux États-Unis, se faire virer par executive order. Mais bon, Et pour finir, il y a des mains américaines derrière chaque appareil, ce qui n'est même pas si clair, parce que je pense qu'il y a pas mal de livreurs qui sont des Mexicains terrorisés d'ailleurs.
Ah
enfin,
oui.
Bon, de toute façon, je ne sais pas si le T1 donc, va concurrencer l'iPhone. Ne revendez pas vos actions Apple tout de suite. Par contre, un bon plan, peut-être, c'est de parier sur les montres, les Fitbit et compagnie. Parce qu'RFK Junior, il a une manière bien à lui de rendre les États-Unis en bonne santé. Encore, il vient carrément d'annoncer que les wearables joueraient un rôle clé dans leur mission de remettre les États-Unis en bonne santé. Encore. Et il a ajouté que dans l'idéal, tous les Américains devraient en avoir un d'ici 4 ans. Alors déjà, il parlerait pas autrement s'il avait des actions chez Apple, Samsung ou Xiaomi, parce que ce genre de propos, ça va faire plaisir à beaucoup de monde quand même. C'est quand même un cadeau fantastique pour tous les fabricants. Surtout si ça se double d'autre chose que du déclaratif, parce que là, bon, le truc, il parle, mais est-ce qu'il y aura une obligation quelconque, ou est-ce qu'il y aura un bonus si on emporte, ou un malus si on n'emporte pas? Je suis curieux de voir ça. Je suis encore plus curieux de voir si Trump va sortir la Trump Watch, du coup. Ce serait un coup de maître, ce serait tellement magnifique. Déjà que le mec nominé par Kennedy, donc par RFK, là, c'est Casey Mintz, qui est lui-même cofondateur d'une boîte qui commercialise des trackers portables pour la glycémie. Étonnant. Alors ok, si vous avez
comme
un souci...
Comme par hasard.
Si vous avez un souci de santé particulier, que votre appareil peut détecter un signal en lien avec le souci, c'est peut-être utile. Mais si vous n'avez rien, hormis dans le fait que la précision de ces capteurs est souvent à prendre avec des pincettes, il y a une étude qui montre que porter des objets connectés qui surveillent le rythme cardiaque peut rendre anxieux. Ces technologies peuvent être une charge mentale en réalité pour une personne en bonne santé. Sans compter que porter un bracelet en plastique 100% du temps, c'est pas forcément idéal hein, pour les polluants, mais bon. Et tous ces appareils, surtout, récoltent énormément de données sur vous, qu'ils envoient tous systématiquement sur des serveurs et qu'en général, vous maîtrisez que dalle. Bref, demander que tout un pays porte un machin connecté, perso, ça me paraît très problématique, mais c'est peut-être juste moi.
Je me suis replongé dans la théorie des miasmes hein, que soutient ce monsieur, là, Robert Kennedy Jr. C'est quoi ? C'est l'équivalent du ministre de la Santé aux États-Unis ?
C'est enfin, ça, je sais pas,
En tout cas, je regardais ça avec un peu d'effarement quand même, les théories qui visent à dire la théorie des miasmes, c'est quand même le truc qui a perduré longtemps hein, dans l'échelle de l'humanité, de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle. Et je rappelle, hein, l'idée, c'est de partir du principe que si on est enrhumé, ce n'est pas des microbes, c'est parce qu'une partie de l'air est viciée par des trucs qui sont pourris, quoi. Enfin, genre des cadavres en décomposition, des trucs comme ça. Et en fait, quand on sait comment ça marche, ça paraît ridicule. Mais j'imagine qu'à l'époque, pendant longtemps, tant qu'il n'y avait pas de contre-information et de contre-preuve, ça pouvait marcher. Maintenant, on sait quand même comment ça marche. Ça a été largement décortiqué. Donc, je n'arrive pas à comprendre que ça puisse avoir son retour. Au passage, sur le Trump phone, Guillaume, je ne sais pas si tu as vu, il y a une vidéo d'un YouTuber américain, la Stenson Doggett. Il parle spécifiquement du forfait mobile Trump mobile. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est très drôle. En fait, il fait un suivi jour après jour de l'activation de sa ligne auprès de Trump Mobile. Alors, c'est toujours facile hein, de se moquer d'un nouveau service comme ça qui se lance et puis de faire partie des early adopters. Donc, forcément, tu rencontres des bugs et tout. Enfin, il galère, mais vraiment, c'est ahurissant de dire qu'il confie le fait de transférer sa ligne mobile existante, son numéro de téléphone, avec la portabilité, auprès de Trump Mobile et qu'il y ait aussi peu d'infos. Tout est bloqué pendant des jours. Et au final, en plus, il perd son numéro. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été capables de lui faire sa portabilité. Il a pu confirmer quand même hein, que le forfait, c'est un vrai forfait mobile. Il y a le RCS, il y a la messagerie vocale visuelle. Et puis évidemment, il y a marqué Trump en haut dans ton smartphone. Donc, c'est très classe. Il y a juste un truc. Attention, c'est vraiment bloqué au niveau des données. Si vous avez 20 gigas, au bout des 20 gigas, vous n'avez plus rien, même pas un débit limité comme ça se fait un peu partout. Là, ils sont sévères. On va voir si ça va se calmer dans le temps, si ça va s'ajuster. Allez, on en profite qu'on est aux États-Unis. On va parler de la guerre économique qui continue à battre son plein. Alors évidemment, avec les États-Unis et puis tout le monde, hein, tout le reste du monde, j'ai l'impression. Et en particulier là, les géants du grand continent américain, le Canada, évidemment, mais aussi le Brésil, Guillaume.
Oui, c'est vrai que Donald menace toujours un peu tout le monde avec ses droits de douane. Alors la deadline, c'est le 7 juillet, je crois, donc à moins que ce soit encore repoussé. En parlant de repousser, ça vous intéresse plus, mais depuis 2023 au moins, mais je le mentionne quand même, l'échéance pour TikTok a encore été repoussée de 90 jours, en fait. Hein, la routine, voilà.
C'est comme certaines tâches qu'on procrastine dans sa to-do list, tu sais, qu'on repousse de jour en jour, et 4 mois après, on ne l'a toujours pas fait.
Là, Donald, il a dit que des gens très riches allaient le racheter. Il n'a rien dit, rien de plus, hein, donc rien de concret, ça peut durer un moment. Donc sinon, sur les tarifs, hein, les négociations, ça avance pas des masses, j'ai l'impression, sauf avec la perfide Albion, c'est le cas de le dire. Mais donc, nous, de toute façon, on n'est pas d'accord avec les Allemands. Les Européens, ça a l'air compliqué, et avec le Japon, ça piétine, le secteur automobile coince. Pour le Canada et le Brésil, c'est mort, je pense. Les négociations ont été annulées avec le Canada, parce qu'ils ont eu l'outrecuidance de vouloir faire une loi dans leur propre pays qui concerne les entreprises américaines et le blé qu'elles font sur leur territoire. Donc, on note bien que les États-Unis n'autorisent pas les pays, en fait, à légiférer comme ils le veulent. C'est quand même pas mal. Et bon, c'est vrai qu'on y a cru. En tout cas, moi, j'y ai cru. Hein. J'ai cru que le Canada allait tenir bon sur sa taxe GAFAM à l'européenne, quoi, un petit peu. Sur les boîtes qui font plus de 1,1 milliard de dollars canadiens et plus de 20 millions au Canada. Donc, il y avait une taxe de 3%, je crois, qui tentait de compenser l'évasion fiscale dans le profit des entreprises depuis des années. Mais non, le Canada s'est couché, je suis déçu. Voilà, je me demande d'ailleurs ce qu'il en sera de l'Europe, hein, finalement, puisqu'on a une taxe analogue. Et on est, nous aussi, sous pression, évidemment, des États-Unis. Alors j'espère que nous, on tiendra bon. Déjà que le sommet de l'OTAN, ça a été le sommet du léchage de pompe, pour pas dire autre chose. En même temps, ça a marché, d'ailleurs. Ça qui est magnifique, c'est qu'il était content. Voilà. Donc je sais pas, on est prêt à tout, j'ai l'impression. Donc peut-être que la prochaine fois, le parfum Trump sera obligatoire. Tout le monde devra avoir le parfum Trump, parce que oui, il a sorti un parfum. Réveillez-moi.
Je savais pas relevé. Mais en même temps, ça m'étonne tellement pas.
Là, mais c'est version homme ou femme. Il y a un parfum, 250 balles. C'est un parfum prise unique, hein, probablement. D'ailleurs, ça a été testé. Bon, bref. Écoute, c'est notre monde aujourd'hui. c'est comme ça. Le Brésil, lui, autant que je sache, il a pas encore fait machine arrière. Et pourtant, il fait encore plus fort, je trouve, que le Canada. Parce que lui, c'est pas une taxe qu'il lève. Il fait passer une loi qui va rajouter une charge considérable hein, sur toutes les plateformes du web, là-bas. Et les grosses plateformes américaines en particulier, bien sûr. Alors, dans les semaines qui viennent, au Brésil, Soit une plateforme qui est notifiée d'un contenu problématique le vire très vite, soit elles seront tenues pour responsables du contenu en question, comme si elles l'avaient produit elles-mêmes, quoi. Donc, c'est l'inverse de la section 230, en gros. Les plateformes devront donc mettre en place des systèmes pour signaler, pour montrer qu'elles agissent aussi, puis pour faire appel, évidemment, si tu dois faire appel si le signalement est abusif, quoi. Alors, c'est strict, c'est une des législations les plus strictes du monde, du coup, dans le pays, quand même, qui est un des plus connectés au monde, parce qu'au Brésil, il y a 140 millions d'utilisateurs sur Instagram, autant sur YouTube et WhatsApp, tout le monde utilise WhatsApp, c'est extrêmement courant. Il y en a à peine moins sur Facebook, donc c'est vraiment un très gros marché. Et c'est un pays aussi où il y a eu pas mal de soucis avec des campagnes de désinformation, du harcèlement en ligne, etc. etc. C'est un pays où il y a eu Jair Bolsonaro, au passage. Par contenu problématique, on entend discours haineux, incitation à la violence, racisme, contenu illégal, évidemment aussi. Alors ça implique les deepfakes, d'ailleurs. Les deepfakes en font partie. Auparavant, une plateforme pouvait être tenue pour responsable de ce qu'elle héberge si elle ne virait pas le contenu après qu'un tribunal lui ait ordonné. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tribunaux, quoi. La justice n'a plus vraiment à s'en mêler. Il va falloir être très réactif et transparent aussi, quoi. Donc, on rapporte ici énormément de soucis de modération sur les plateformes comme X ou Facebook depuis des années. Alors, évidemment, les pousser à faire mieux et même, ou juste appliquer les règles qu'elles se sont elles-mêmes données, en fait, c'est pas forcément une mauvaise idée, quoi. Ouais. Après, il y a aussi toujours les mêmes un petit peu soucis, comme on en avait parlé aussi pour le Take It Down Act américain. Il y a toujours le danger des abus, quoi. Les gens qui abusent pour la propre fin de cette loi. Il y a plateformes qui, du coup, s'auto-censurent à l'excès pour ne pas prendre de risques. Mm-hmm. C'est un problème très délicat. Donc, on verra voir d'ici quelques semaines. On verra bien ce que ça va donner. Ça pourrait être très intéressant. Bon, après, ce qui est sûr, c'est que Oncle Donald, il ne va pas apprécier le Brésil. Le Brésil est sévère avec les riri, fifi, loulou, donc le Donald. Donc, il a beau caqueter très fort, apparemment, les autres pays continuent à être méchants avec lui, quoi. C'est terrible.
Ça va continuer, ça va nous donner du grain à moudre pour le podcast. Quelque part, tant mieux sur notre contenu de Tech Café. Mais oui, c'est un équilibre délicat. Et puis, on va continuer parce que parmi les acteurs privés qui sont directement visés par les décisions politiques de grands politiques mondiales, il y a évidemment Apple. Tout ce que peut faire l'Union européenne concernant les GAFAM peut faire grincer des dents Donald Trump. Mais en réalité, dans le cas d'Apple, c'est assez intéressant. Il semble quand même qu'il y ait un consensus au sujet de la distribution des applications. La situation actuelle n'a pas l'air de satisfaire tout le monde, à part Apple, finalement. Et ils ont été amenés à s'ouvrir beaucoup plus et puis à alléger un petit peu le racket qu'ils organisaient avec l'App Store aux États-Unis. Mais c'est pas encore fini pour eux. En Europe, ils aménagent un peu, Apple, vraiment un peu. Écoutez bien les guillemets, les modalités de distribution, Guillaume.
Oui, alors il va remanier encore une fois ses règles App Store après que la Commission européenne lui ait dit en substance d'arrêter de la prendre pour un jambon, quoi, pour éviter donc encore une énorme prune dans le cadre du DMA. Apple va renoncer, il va pas tout de suite renoncer, en fait. Il a annoncé un système de niveau pour les commissions.
Qui est très clair, très simple et très clair.
Ouais, c'est terrible. Effectivement, pour les commissions prélevées hors App Store. Donc il y aura un niveau 1, donc pour les paysans, quoi, le niveau pas cher.
Les 100 dents.
Voilà, 5%, c'est un niveau 100 dents avec 5% de commission, mais qui ne donne pas accès à toute la succulence des fonctions Apple pour l'App Store. Et le niveau 2, qui
est. Les mises à jour, par exemple, les mises à jour automatiques.
Mais oui, parce que ça c'est un truc premium, les mises à jour.
Grand privilège.
Ouais. Oui, si tu es un 100 dents, tu ne mets pas à jour. Et le niveau 2, qui est donc le niveau des vrais hommes, évidemment, et qui est en fait le niveau par défaut avec 13% de commission, considérant que tout ça était sans doute trop simple, n'est-ce pas ? Apple introduit une nouvelle taxe, la Core Technology Commission, qui, attention, n'est pas la Core Technology Fee, il ne faut pas confondre. Non. Là, il prend 5% de commission sur les achats hors app, mais qui sont faits via une app de l'App Store. Et bien sûr, le Core Technology Fee reste en vigueur. Pour l'instant, c'est 50 centimes par téléchargement au-dessus du million annuellement. Mais en janvier 2026, ça change. Tout le monde passera au Core Technology Commission, donc il n'y aura apparemment plus de Core Technology Fee. Est-ce que c'est chiant et compliqué ? Oui, et c'est voulu, bien entendu. Reste à voir si ça apaise les juristes européens. Si c'est le cas, Apple pourrait avoir une bonne base pour ce qui pourrait l'attendre dans son pays natal, parce qu'il y a quand même un petit retour de karma. Cinq sénateurs veulent réintroduire une loi qui obligerait Apple à ouvrir leur machine, donc sideloading, plateforme de paiement externe. Donc c'est 3 démocrates et 2 républicains. Et oui, c'est bipartisan, ils sont même pas en train de s'arracher les yeux, ça fait plaisir à voir. C'est le Open App Market Act, qui est la réplique exacte du même truc et qui est un projet avorté en 2021 et qui s'adresse aux App Store qui ont plus de 50 000 utilisateurs. Alors, je sais que ça a déjà raté, vous allez me dire, oui, mais entre-temps, l'Europe est passée par là et en fait, le contexte est très différent parce que l'Europe est passée par là, mais Epic aussi est passée par là. Tout ça a forcé Apple à ouvrir les iPhones Et d'ailleurs, ça s'est passé, hein, je veux dire. Apple a ouvert les iPhones et devinez quoi ? Ça n'a pas déclenché la Troisième Guerre mondiale.
C'est vrai, c'est important de le souligner.
C'est quand même fou,
on aurait pu penser, les iPhones n'ont pas tous explosé sous l'attaque des virus. Hein.
C'est incroyable. Hein. Donc voilà, donc, en tout cas, la Troisième Guerre mondiale n'a pas été déclenchée par Apple, on n'a pas besoin de lui pour ça. Et donc, dans ce nouveau contexte, qui sait ce qui pourrait arriver, quoi. Ça va dépendre de l'humeur de Trump du moment, j'imagine, comme un petit peu tout, mais donc il y a une possibilité.
Eh ben, on va suivre ça, c'est bien. On n'y comprend rien hein, à ce système. J'ai essayé de le comprendre, hein, mais c'est vraiment pas évident. Je pense que pour les développeurs, c'est plus simple. Mais bon. Une solution qui est souvent évoquée pour s'affranchir des géants, elle est toute trouvée, en plus, ça existe depuis longtemps, c'est de se tourner vers des applications et des systèmes d'exploitation libres. Alors oui, c'est pas si simple, mais tout est affaire aussi parfois de décision. Et justement, Guillaume, en Europe, une nouvelle étape est franchie pour l'informatique professionnelle et puis, j'allais dire aussi, pour peut-être les administrations, donc très près de nous, hein, dans la ville des Lumières, la ville de Lyon notamment.
Exactement, la ville de Lyon a décidé de passer à Linux et OnlyOffice, voilà, et PostgreSQL. Donc la ville s'est engagée progressivement à remplacer les systèmes Microsoft, hein, c'est un enjeu de souveraineté aussi. C'est bien marqué que c'est un enjeu de souveraineté et c'est aussi marqué que c'est pour prolonger la durée de vie des équipements informatiques. D'ailleurs, vous n'êtes pas supposé sans savoir hein, que Windows 10 vit ces derniers mois. Microsoft a décidé de couper le support du système d'exploitation qui est encore utilisé par 37% des joueurs Steam et 56% des machines en France, selon StatCounter quand même. Hein. Donc je ne sais pas si Lyon a sauté sur l'occasion, mais c'est assez probable. Hein, tant l'arbitraire total de Microsoft en matière d'update est flagrant. Des machines basées sur des cores de génération 7 étant toujours tout à fait capables de faire tourner Excel, hein, je vous assure.
Évidemment.
Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, est-ce que c'est un aveu d'échec, mais Microsoft propose une extension quasi gratuite du support de Windows 10. Il y en a une payante, $30, qui est désormais une gratuite. Alors, il y en a une qui consiste... Enfin, en fait, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez Windows Backup. Bon, alors évidemment, si vous utilisez Windows Backup, c'est que vous faites des backups. Mais le backup, ce problème, c'est que bah, il faut les 5 gigaoctets de Microsoft Cloud qui sont gratuits, ils vous suffisent sans doute pas. Donc, ça veut dire que vous payez sans doute un abonnement. Donc, dire que c'est gratuit, c'est peut-être un peu abusif. Mais bon. Alors, un qui est un peu plus gratuit, c'est une solution qui consiste à payer 1000 points Microsoft à Microsoft qui va mettre en place donc un truc. Apparemment, c'est une sorte de récompense de fidélité. Voilà, vous pouvez,
une carte de fidélité payante un peu, non
c'est... Non, mais les points Microsoft, vous les... enfin, du moment où vous avez un compte Microsoft, et que vous faites des conneries avec des plateformes Microsoft, donc je sais pas, aller sur Bing.
Ok.
Bah voilà, ça vous rapporte des points, quoi, de manière
utiliser plus Copilot,
moins organique, quoi.
Okay.
Ouais, ouais, voilà. Et du coup, bah, si vous avez 1000 points, vous pouvez payer 1000 points pour augmenter d'un an le support
incroyable
de votre système d'exploitation.
Ah oui, donc c'est pas un système de fidélité payant, c'est un vrai système de fidélité d'application qu'on peut transformer en support. Intéressant.
1000 points, apparemment, enfin, c'est pas beaucoup, mais moi je ne les ai pas, donc je ne sais pas.
Quoi ? Tu n'utilises pas assez les services Microsoft ?
Il semblerait que non.
Enfin.
Pourtant, j'ai une Xbox, c'est pour te dire.
Ah oui.
Est-ce que c'est la première des concessions que Microsoft sera obligé de faire compte tenu de la réalité du terrain ? Parce que vraiment, 56% en France, hein, je le rappelle quand même, hein, Windows 10. Son insistance à te faire changer de PC sans raison valable, c'est aussi prendre un gros risque, hein, pas quand même. Hein, c'est prendre le faire. Tu pourrais migrer ailleurs, quoi. Hein, et ça me semble vraiment étrange dans les conditions actuelles. Parce que, de fait, Windows est en perte de vitesse. Il y a quelques jours, dans un post de blog, Microsoft se vantait que Windows était installé sur un peu plus d'un milliard de machines. Alors, ça paraît beaucoup comme ça paraît confortable. Hein.
Tout d'un coup, un milliard, tu te dis, ouais, c'est beaucoup.
Ouais, sauf qu'en 2022, il y a des documents légaux qui faisaient état de plus de 1,4 milliard de machines. Donc, si cette année, ça avait été mieux, t'inquiète pas qu'ils auraient appuyé dessus.
Ils forcément.
Ils auraient dit, ouais, non, 1,5 milliard de machines. Non, ils ont dit 1 milliard.
Forcément.
Donc, on peut en déduire que raisonnablement, hein, que Windows a disparu de 400 000 machines, en 3-4 ans à peu près. Mmh. Et ce n'est pas pour une migration sous Linux, en fait, hein, malheureusement. Enfin, en tout cas, pas significativement. Peut-être un peu, bien sûr, mais bon, pas significativement. Avant la pandémie, le PC était déjà une plateforme en déclin. Le Covid a donné un coup de fouet aux ventes, bon, voilà, surtout
temporaire.
Au PC, mais aussi donc au Mac. Et, mais évidemment, la tendance pré-pandémique, elle est revenue, quoi, hein, sans doute. Hein. Donc le PC n'est plus utilisé globalement, hein, schématiquement, que par les joueurs, les pros et les enthousiastes. Et en gros, le grand public, bah, il est sur mobile, à la rigueur, il est sur Mac, peut-être sur Chrome OS aussi, mais Windows, il n'est pas en très grande forme, enfin, en réalité. Et en plus de ça, bah, justement, parmi ces pros, il faut se rendre compte qu'il y a un vrai mouvement d'émancipation en Europe qui commence à arriver. C'est surtout à cause de Trump, mais c'est aussi sans doute un peu à cause de Microsoft. Hein. Il y a des exemples depuis un moment. Donc, en Allemagne, par exemple, Dernièrement, il y a eu des exemples en Allemagne avant, hein, je crois que c'était il y a un ou deux ans, mais dernièrement, le ministère danois du numérique a annoncé qu'ils allaient virer Microsoft de leur machine à coup de Linux et LibreOffice. Juste après que les villes de Copenhague et Aarhus, d'ailleurs, aient fait pareil, un petit peu comme Lyon chez nous, quoi. Donc ça, c'était en juin, donc possible que les discours sur le Groenland de Donald Trump aient joué un rôle, d'ailleurs, au Danemark.
Oui, ça doit pas aider.
Ça a dû fâcher, quoi. Et en mars, d'ailleurs, les Hollandais appelaient à se débarrasser de Microsoft. L'an dernier, c'était un Land allemand. Ouais, c'était l'an dernier, en fait, qui faisait la même chose.
Okay.
Donc, il y a une vraie tendance.
Intéressant de suivre ce mouvement, effectivement, qui est aussi beaucoup porté, du coup, vous l'avez compris, par l'Europe. Et puis, alors, pendant qu'on y est en Europe, on peut s'attarder aussi sur l'évolution législative, notamment au Danemark, où il y a là aussi une grande première. Alors, OK, ils se sont équipés maintenant d'équipements Linux, mais ils font un peu plus maintenant sur le plan légal. Ils vont être plus explicites sur la manière dont on peut considérer et agir sur les fausses images et vidéos générées par intelligence artificielle, les fameux deepfakes, Guillaume.
Oui, puisqu'on est parti vers Copenhague et Aarhus. Restons au Danemark pour, là encore,
il y fait frais, en plus.
Qui tente de lutter contre la prolifération des deepfakes au sens large, hein, aussi bien audio que vidéo, donc visuel que sonore. En gros, la loi sur le copyright danoise va être modifiée pour inclure ton apparence. Voilà, notre apparence à nous tous, donc le visage, la voix, notre représentation digitale sera sous copyright. Ben, c'est nous évidemment qui posséderons ce copyright. Donc on ne peut attaquer quiconque s'en sert sans notre accord, hein, dans un contexte professionnel ou personnel. Donc, il y a une exception pour la satire et la caricature, quand même.
Mmh.
Mais en dehors de ça, les Danois pourront demander à une plateforme de virer leur deepfake si ça ne leur plaît pas. Là encore, il y aura des sanctions s'ils ne le font pas. Donc, c'est une protection qui ne couvre pas que les deepfakes d'ordre sexuel. Hein. Attention, hein, c'est même des trucs qui sont... Bon, évidemment, si c'est sexuel ou humiliant, vous allez forcément avoir envie de les virer. Mais même si vous avez juste une représentation digitale de vous que vous n'avez pas envie d'avoir, vous pouvez attaquer.
En fait, je me demande pourquoi ça a mis autant de temps à être clarifié, ça, finalement, sur le plan légal, et puis qu'il y a priori que le Danemark, là, qui s'en empare, peut-être d'autres pays, hein, dites-le nous si vous avez des veilles législatives comme ça sur ce sujet-là partout dans le monde, c'est intéressant. Mais finalement, ça fait sens. Après, je me dis, ça doit être difficile de la porter parce que dans quelle mesure est-ce que certains deepfakes sont pas très réussis et tendent à imiter quelqu'un, pas forcément, tu vois, pour de la satire de personnages publics. Bon, je sais pas si on pourra beaucoup faire de deepfakes de toi, Guillaume, j'en doute, mais de moi, tu vois, enfin, je sais pas, il faut arriver à prouver, il faut me mettre en scène de la même manière, me faire dire des choses qui laisseraient imaginer que c'est moi. Enfin, ça me paraît compliqué d'arriver. Je suis sûr que ça va laisser place à de nombreux débats devant les tribunaux, ça. Bon, écoute, on verra. On va continuer avec le cadre légal, toujours. Hein, on est toujours dans notre petite rubrique législative sur l'entraînement des intelligences artificielles. C'est un sujet qu'on aborde régulièrement. Et puis, y a une étape assez décisive qui pourrait bien n'avoir été franchi, il y a un tribunal fédéral américain qui a estimé qu'il était légal, sous le principe du fair use, donc l'usage équitable en bon français, de scanner des livres pour entraîner un modèle. Alors Guillaume, j'ai l'impression que ça avance et pas forcément dans le sens qu'on aurait pu espérer quelque part.
Ah ça dépend, oui, évidemment, ça dépend des gens. Là, on va en arriver au gros morceau de la semaine, sans doute. Hein, avec, il y a plusieurs actions en justice, finalement, qui commencent à esquisser le paysage législatif autour de l'entraînement des IA. Alors très tôt, les créateurs de contenu, hein, au sens large, mais en particulier graphiques et textes, ont commencé à attaquer les OpenAI, Anthropic, Meta, etc., mais aussi les Stable AI ou Midjourney, comme étant des machines à plagiat. Ils sont entraînés sur du contenu volé, qui pose une menace existentielle à leur gagne-pain, bon, en faisant une concurrence massive quoi, et déloyale. Alors, il y a aussi les procès contre Suno et Yudio, d'ailleurs, hein, au niveau musical. Donc, il y a plusieurs aspects à ces procès. En gros, il y a trois gros morceaux, quoi. Il y a trois gros domaines. Donc, d'une part, il y a la partie plagiat. Les modèles produisent des textes des auteurs et les plateformes distribuent les œuvres sans autorisation. Donc, on voit ça dans les procès du New York Times contre OpenAI, par exemple, hein, et dans l'attaque de Sarah Silverman et d'autres contre Meta. Et aussi, bien sûr, dans l'attaque de Disney contre Midjourney et des studios contre Yudio, hein, par exemple. Mais il y a aussi l'aspect fair use. L'aspect fair use, c'est est-il permis de récolter les données qu'Anthropic ou Meta aspirent sans aucune autorisation des auteurs pour entraîner un chatbot qui va pisser du texte au kilomètre à la manière de des auteurs qu'il aura lu, hein, dans Lovecraft, si tu veux. Hein, voilà. Et puis, il connaîtra ses classiques aussi, hein, qui sera aussi bien que toi, avec qui Hermione va finir à la fin. C'est un point clé du procès d'Andrea Bartz, qui est journaliste, et de Charles Graber et de Kirk Johnson contre Anthropic. Mais c'est aussi l'essence du projet de Getty contre Stable AI. Et enfin, il y a la question de comment les boîtes d'IA se procurent ces données, tout simplement. Hein, si on pirate, est-ce que c'est bon, quoi. vu que ça va plus vite de pirater quand même, et que bah, c'est pas pour lire en fait, hein, c'est juste pour, bien sûr, pour donner aux IA le temps de l'entraînement, puis après on les vire, quoi.
Bon, on leur donne à manger.
On donne à manger, puis après on les vire. Là. C'est une question importante et qui est même cruciale dans les procès contre Meta et Anthropic. Et à ces dernières questions, la réponse, c'est non, hein, assez simplement, vous ne pouvez pas pirater des livres, ça ne se fait pas, que ce soit pour les lire ou pour les donner à manger à ton LLM. Dans le jugement contre Anthropic, les charges de piratage ont été retenues. Contre Meta, le fait qu'ils aient utilisé BitTorrent pour télécharger pas moins de 80 teraoctets de bouquins, quand même, et ce faisant, contribuer à leur dissémination hein, via des sites pirates, puisque ben, voilà, t'es sur BitTorrent, quoi. Ça joue clairement contre lui. Alors Meta en était très conscient, hein, puisqu'il a eu cet argument lunaire. On déconnecte le torrent à la microseconde où c'est fini. Comme ça, on le cite pas. On le cite pas. Eh oui. Alors que bon, bah, ouais, tout le monde, enfin, tous ceux qui ont utilisé BitTorrent savent bien qu'en fait, tu cides les morceaux. Hein. Dès que tu as un premier fragment, dès le début, tu cides.
T'as pas besoin d'attendre que ton film soit terminé pour envoyer des petits morceaux en même temps. Mais bon.
Et donc, de même, Anthropic a bien compris que pirater des bouquins, c'était limite, hein, puisqu'ils ont fait. Enfin, ils l'ont fait un peu pour aller plus vite au début, hein, je cite, hein, pour aller plus vite. Et puis après, ils ont arrêté, ils ont acheté des millions de bouquins d'occasion qu'ils ont tous déchirés. Scanner et bénir à la fin. Parce que bah, c'est plus simple de scanner si tu coupes les pages. Donc je sais que les bibliophiles qui nous écoutent doivent se tordre de douleur à l'idée de millions de livres désossés, mais bon, bah,
désolé, on aurait dû faire un trigger warning, effectivement.
Et oui, je sais, c'est assez horrible, mais bon, il n'y avait rien de rare. Hein. Puis bon, chaque jour, des millions de pages se retrouvent au pilon par ailleurs. Hein. Et justement, oui, ils les ont achetés et utilisés bah, comme bon leur semblait, et ça pose pas de problème. Donc, grande nouvelle qui pose un précédent majeur, sans aucun doute. Hein. Oui, utiliser le contenu de ces bouquins pour entraîner des IA, c'est du fair use. À condition que tu acquies les données légalement, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation des auteurs. L'argument, c'est que les IA n'enregistrent pas les livres, hein, elles apprennent avec, comme des élèves apprennent à lire et à écrire avec des bouquins. Et personne n'a l'idée de dire qu'apprendre à bien écrire à des élèves, bah, c'est pas bien parce que ça forme des concurrents aux auteurs d'aujourd'hui, quoi. L'usage fait du bouquin est transformatif. Et on ne crée pas un plagiat, mais on contribue à la création d'un système qui est qualitativement différent. Il fournit tout un tas de services qui sont sans rapport avec l'œuvre d'origine. Donc ça, ce sont les conclusions du juge, hein, qui rejoignent pas mal les arguments d'Anthropic et de Meta, hein, au demeurant, qui lui aussi, d'ailleurs, est plus ou moins blanchi de la partie fair use de son procès avec Silverman. En l'occurrence, c'est le juge Vince Chabria qui a jugé que les plaignants n'avaient pas pu prouver leurs accusations devant la cour. Et en réalité, Vince, il est beaucoup plus nuancé quand même. Hein. En fait, lui, il ne se prononce pas sur l'aspect fair use en général, sur les œuvres copyrightées. Lui se contente de juger que selon la formulation de la plainte qu'on lui a mis sous le nez, bah, il n'y avait aucune preuve crédible qui a été mise en avant pour étayer ça. En particulier, aucune preuve de plagiat massif et de marché dilué, je cite. Hein. En gros, aucune preuve que Meta ait utilisé le livre pour entraîner donc un système qui lèse en particulier ces auteurs-là, en faisant que les gens n'achètent plus leurs livres. Voilà, cet angle d'attaque ne marche pas, quoi, tout simplement. C'est pas défendable, et donc Meta a gagné sur ce point. Donc, combiné avec l'autre jugement, néanmoins, hein, avec le jugement donc, contre Anthropic, on peut imaginer qu'aux États-Unis, c'est en train de clairement basculer en faveur du fair use.
Clairement,
oui. Et d'ailleurs, Getty vient de laisser tomber une partie de ses accusations contre Stability AI. La partie violation de copyright, selon laquelle Stability AI aurait entraîné son modèle sur des images Getty sans demander la permission, tombe à l'eau. Alors, c'est concomitant. Est-ce que c'est vraiment totalement suite au jugement Anthropic? C'est bien possible. Bon, après, il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'ils aient confirmé, mais bon. En tout cas, Stable Diffusion est aussi un outil suffisamment différent et transformatif pour que cet argument utilisé par Getty ne soit pas pertinent. Getty continue d'attaquer, par contre, sur d'autres points, mais bon, on tient une tendance, apparemment. Alors, ça ne blanchit pas automatiquement toutes les boîtes de tout. En particulier, je ne pense pas que ça absolve Midjourney de produire des Spider-Man et des Pokémon à la chaîne. Hein. Ça, je pense clairement que c'est beaucoup plus difficile. Yu-Gi-Oh, à mon avis, c'est peut-être plus compliqué aussi, nettement. Mais bon, si la question c'est, est-ce que pour entraîner des IA, on doit demander une permission, demander la permission aux auteurs et même éventuellement les dédommager, autrement qu'en achetant leur livre, hein, tout simplement, ben, la réponse semble bien être que non. En tout cas aux États-Unis, et c'est déjà très important.
Et c'est vrai que c'est toujours difficile, enfin je sais pas ce que tu en penses toi de ton côté à titre perso, mais c'est toujours difficile de suivre ces sujets sans avoir finalement un avis personnel qui soit conforte, soit contredit quelque part les jugements qui sont faits. Bon, on va pas dire que la législation est censée plaire à tout le monde, sinon ça n'existerait pas. Mais c'est vrai que je peux pas me satisfaire que une œuvre et des œuvres soient massivement digérées même si c'est très transformatif, aider un outil à le développer, quoi. Enfin aider à développer un outil En même temps, je pense que c'est le cas de plein de situations et l'inverse non plus ne me satisfait pas complètement. Donc, c'est vrai que c'est compliqué quand même à arbitrer ce sujet. Je ne sais pas si toi, tu as un sentiment personnel. Admettons, Guillaume, là, on est, voilà, on est fin, dans début juillet 2025. Merveilleux, cadeau, il y a un auditeur qui t'a déposé une baguette magique et tu as le droit de mettre en place le cadre que tu veux dans le monde concernant l'entraînement des intelligences artificielles et des œuvres qui sont protégées. Ce serait quoi ton action avec cette baguette magique, toi ? Qu'est-ce que tu souhaiterais faire avec ?
Moi, je souhaiterais remanier beaucoup plus que l'entraînement des IA en réalité. Hein. C'est-à-dire que l'idée, ce serait que tous les artistes soient rémunérés et qu'on prend, enfin, tu vois, et rémunérés de manière juste et équitable et pas juste dans l'entraînement des IA en fait. Parce que le problème, il est beaucoup plus large que ça en réalité, hein, je pense.
C'est quelque part une conséquence de toute une situation qui n'est pas satisfaisante, c'est ça ce que tu veux dire ?
Oui, je pense qu'effectivement, hein, on avait pas. À une époque, on parlait de licence globale, par exemple,
ouais.
Qui permettait de rémunérer les artistes d'une manière différente et plus équitable que juste par des maisons de production qui. On peut en discuter longtemps, et puis bon, après, c'est pas non plus. C'est pas vraiment mon sujet, hein, comment on est produit la musique ou. Ou les œuvres d'art, mais je pense qu'il y a vraiment un problème qui est encore plus profond que ça. Sur les IA en particulier, si on pouvait faire que les artistes soient rémunérés à leur juste valeur, évidemment, ce serait bien. Mais le problème, c'est que même si tu fais ça, les artistes sont rémunérés à chaque fois qu'une de leurs œuvres est utilisée par une machine.
Oui.
C'est cool. Mais bon, c'est one shot, enfin, en tout cas, c'est pas forcément très souvent. Par contre, la machine, elle est là, le système, il est là, et ça ne résout pas le problème de dilution du marché. Ça ne résout pas le problème du fait qu'une machine peut cracher des œuvres à la manière d'eux.
Bah, évidemment.
Par million, enfin, en tout cas, tu peux en faire plusieurs par minute. Et ça, cette inondation du marché qu'on voit pour la musique actuellement, on est en train de la voir pour la musique, je crois qu'il y a à peu près. Sur Spotify, ils ont estimé qu'il y avait déjà à peu près 500 000 personnes et qui écoutaient sans le savoir de la musique IA et qui se portaient très bien d'ailleurs, hein, qui ne se plaignaient pas. Hein. Mais voilà quoi, enfin, je veux dire, faire un album par IA, c'est pas forcément très long quoi. Et ben c'est un problème voilà dans la musique, mais c'est aussi vrai pour les illustrateurs, pour les écrivains, je pense pas encore vraiment, encore que ça commence. Il y a des bouquins. Mais si tu veux, ce problème-là, il n'est pas résolu par le fait même si tu payes ou alors tu dois les rémunérer à la production. Mais comment tu fais pour maîtriser ça, tu vois, c'est extrêmement compliqué. Hein.
Le sujet est terriblement, effectivement, compliqué. C'est un défi d'organisation humaine, tout ça. Donc c'est ce qui fait que le sujet ne se traite pas en un claquement de doigts avec une juste bonne idée ou une baguette magique, évidemment, vous l'avez compris. Allez, on termine cette rubrique avec les supercalculateurs, les grosses machines qui sont capables de calculer des trucs très compliqués. Un petit éclairage sur Jupiter, j'adore le nom, le premier superordinateur exascale européen, parce qu'en plus d'être très puissant, il est également remarquable sur son économie et son efficacité énergétique, Guillaume.
Oui, quelques petites nouvelles de Jupiter. On ne parle pas de Manu. Hein. Jupiter, c'est notre nouveau superordinateur européen, qui est costaud. C'est notre premier supercalculateur exascale, c'est-à-dire qu'il aligne autour d'un hexaflop. Un hexaflop, c'est 1000 pétaflops, et donc c'est 1 million de teraflops. Ça fait pas mal de PlayStation 5, quoi. Donc ça fait surtout 24 000 puces NVIDIA Grace Hopper, qui sont réparties dans 5900 nœuds de calcul. Donc le tout est au... Jülich, bref, Supercomputing Center, donc c'est en Allemagne, c'est entre Cologne et Aix-la-Chapelle. Il est d'ores et déjà le quatrième ordinateur le plus puissant du monde, hein, selon le top 500, qui, bien évidemment, ne regroupe que les machines qui sont connues publiquement. Donc il ne faut pas douter de l'existence de machines privées ou militaires qui soient plus puissantes que ça. D'ailleurs, si on comptait les hyperscalers dans le lot, ils pourraient sans doute dominer très largement le top, mais bon, quand même pas mal. Jupiter possède 80% de la puissance d'Aurora tout en consommant presque trois fois moins. Aurora, c'est une machine Cray, HPE, basée sur de l'Intel. Jupiter étant fait par Bull Secana et son efficacité est très bonne aussi puisque son ratio de performance réelle sur performance théorique est aussi bien meilleur. Il atteint presque 800 pétaflops de performance réelle sur 930 théoriques. Au-dessus d'Aurora, on n'a que des Américains, on a Frontier et El Capitan qui atteignent 1,3 et 1,7 hexaflops en performance réelle. Tous deux sont plus puissants qu'Aurora et consomment aussi d'ailleurs bien moins. Et c'est basé sur de l'AMD. Qu'en dit-on sur les soucis qu'a eu Intel avec Aurora, mais bon, c'est pas le sujet. Maintenant qu'on a un super ordinateur tout neuf, on en fait quoi d'ailleurs ? Et oui,
bah oui,
qu'on
à fait quoi avec... ça sert ?
Eh ben, attends, parce que ça se fait une belle machine pour jouer au dernier Doom.
Même pas sûr.
La même chose qu'avant, évidemment. On fait la même chose qu'avant, mais mieux. Un des premiers usages de Jupiter sera de simuler un clone de la Terre au niveau météorologique. Hein. Le but, c'est d'avoir une simulation météo de la Terre la plus précise possible, toute la Terre.
Ça risque pas d'être très réjouissant, ça, pour...
Non, effectivement, mais bon, auparavant, donc, on avait la Terre avec un maillage d'une finesse de l'ordre de 9 km, et avec Jupiter, on peut passer à 700 mètres, et donc avoir littéralement des phénomènes locaux, hein, des microclimats, on a accès à plus de précision sur les événements qui sont beaucoup plus complexes à prévoir. Et donc, bon, bah, Jupiter, c'est un début, hein, c'est un projet de longue haleine, mais il a commencé en 2018, il y a eu des phases préliminaires en 2024, et on planifie déjà un autre superordinateur, hein, c'est le premier, mais pas le dernier, superordinateur exafloppique, hein, comme on dit. Et il sera en France le prochain, il sera à Bruyères-le-Châtel, il s'appellera Alice Recoq, une informaticienne française hein, qui a participé à l'élaboration des premiers mini-ordinateurs français dans le cadre du plan calcul hein, dans les années 50-60, et qui a aussi participé à la création de la CNIL.
Eh bah, bravo, je ne savais pas qu'elle avait fait ça, cette personne, excellent. Bravo en tout cas, notamment pour cette efficacité énergétique, l'enjeu c'est évidemment vital, vous le comprenez, pour l'avenir de la planète, c'est d'autant plus facile à dire qu'on en parle depuis le début de l'épisode et qu'on est en pleine canicule. D'ailleurs, on parle depuis le début de cet épisode de réchauffement climatique. Et puis à chaque fois, je pense à ce concept qui m'avait fait tilt, en fait, hein, tout simplement, qui est le triangle de l'inaction. C'est un mécanisme qui explique pourquoi on ne fait rien face au réchauffement climatique. En gros, il y a les trois composantes. Il y a les citoyens, les États et les entreprises. Et les citoyens attendent que les États agissent. Les États attendent que les entreprises s'engagent. Et les entreprises attendent que les citoyens changent leurs habitudes. Donc évidemment, ça ne bouge pas. Tout le monde se dit, c'est pas à moi d'y aller en premier. Eh bien, vous me voyez peut-être venir, mais pour Tech Café, eh ben, c'est pareil, parce que beaucoup écoutent, beaucoup aiment, et beaucoup se disent intérieurement, il est top ce podcast, j'adore les infos, j'adore le traitement qui en est fait, je trouve que ça occupe une place particulière dans ma journée. J'espère que d'autres vont les soutenir sur Patreon. Mais si tout le monde pense ça, ben, personne ne le fait. Et bon, évidemment, vous êtes déjà nombreuses et nombreux à nous soutenir. Vous êtes d'ailleurs pratiquement 400, alors on a baisser notre palier, on s'approchait des 400 soutiens et on a rebaissé, on n'arrive pas à l'atteindre, hein. On est à 395 au moment où on enregistre cet épisode et pourtant ce serait non seulement un message fort mais aussi une vraie bouffée d'oxygène pour la production du podcast. En rejoignant le club Tech Café sur patreon.com/techcafé, vous accédez à un flux privé sans la pub, les épisodes quelques jours en avant-première selon les formats d'épisodes et puis des bonus exclusifs et surtout le pouvoir de faire perdurer ce podcast. Vous avez deux options, soutenir Tech Café dès maintenant sur patreon.com/techcafé ou de vous poser un petit rappel là, dans Notes, dans Todoist, dans votre calendrier, dans Rappel sur iOS, que vous voulez, mais vraiment tout de suite. Hein, il faut me faire la promesse que vous mettez ce rappel tout de suite pour soutenir Tech Café sur patreon.com/techcafé. J'en profite. Au passage, la newsletter ne vous est pas envoyée automatiquement. Il y a un message maintenant dans le parcours d'abonnement sur Patreon. Si vous décidez de vous inscrire, même sur la partie gratuite de Patreon, qui vous permet déjà de consulter quelques infos, ou même si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous n'avez pas automatiquement la newsletter, vous avez un lien. Mais vraiment, je fais ça dans les règles de l'art. Il faut vraiment que vous alliez accepter les conditions, cocher les bonnes cases qui vont bien, etc. etc. Donc voilà. En tout cas, bienvenue sur Patreon si vous envisagez de le faire. Allez, on va passer à la suite de l'épisode. On va continuer avec toujours de l'application de l'intelligence artificielle. Et depuis qu'on en parle un petit peu tout à l'heure, on sent que c'est transformatif, on sent que ça pourrait, et je ferai presque écho aux conversations initiées avec MacGreg4000 dans les interactions au début de cet épisode sur Discord. Mais est-ce que demain, on ne pourrait pas, Guillaume, envisager que les IA fassent, allez, tout simplement une partie de notre boulot pour que nous... on puisse se reposer un petit mojito, un Virgin Mojito, pour en profiter, je ne sais pas, quelques jours par semaine, quelques heures par semaine. Ce ne serait pas le paradis, franchement.
Écoute, ouais, je ne sais pas si vous avez remarqué un truc avec les IA en entreprise, mais on parle toujours de gains de productivité. Ouais. Alors, on a toujours deux scénarios en tête. Soit on attend des employés qu'ils soient encore plus productifs qu'avant, hein, et on démultiplie la productivité de l'entreprise. Ça suppose que les employés doivent utiliser à fond les IA, hein, mais c'est souvent présenté comme la meilleure option. Surtout en face de l'autre scénario qui est on vire des gens parce qu'on n'a plus besoin, parce que ceux qui restent, ils sont beaucoup plus productifs. Bon. Alors évidemment, on peut avoir une combinaison des deux. Et puis un gain de productivité, ça ne sert à rien si en face, il n'y a pas une demande, évidemment, à la hauteur. Mais bon, il y a un troisième scénario hein, que personne n'évoque jamais. Mais c'est normal, faut les comprendre. Les patrons, c'est des patrons, quoi. Et les patrons américains, ils n'ont pas été élevés comme ça, c'est culturel. Et ce scénario est complètement extérieur à leur sphère cognitive. Il est pourtant
simple. Je ne sais pas s'il n'y a que les patrons américains, d'ailleurs.
C'est vrai, je rectifie. Les patrons, c'est culturel, et ça, c'est extérieur à leur sphère cognitive. Et oui, c'est un concept qui est pourtant simple. On travaille moins, parce que les IA permettent d'être plus productifs chaque jour, à chaque heure. Alors super, on peut faire le même boulot en moins de temps, et donc avoir du temps libre. Je sais, c'est une idée disruptive, hein, c'est un concept volontairement provocateur, c'est presque une insulte, hein, pour beaucoup de monde, mais juste pour la science, imaginons tellement d'un monde que décrit Bernie Sanders chez Joe Rogan. Un Joe Rogan qui a l'habitude de faire passer dans son podcast toutes sortes de libres penseurs aux idées extrémistes. Hein. Ouais. Il a voulu tester les lubies hallucinatoires des gens dits de gauche, apparemment. Bernie évoque donc un concept étonnant qu'on pourrait appeler « réduction du temps de travail ». Il évoque un chiffre farfelu de 32 heures par semaine. Mais qu'est-ce, où il va chercher tout ça, quoi ? C'est...
Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Mais franchement, les platistes, ils semblent beaucoup plus crédibles à côté. Mmh. Ils parlent sérieusement d'entreprises qui, au lieu de virer des gens, les paieraient pareil, bah, puisqu'elles n'ont pas de base de productivité, hein, voire l'inverse, et les feraient travailler moins pour qu'ils puissent faire des choses d'une futilité confondante, comme passer du temps avec leurs proches, par exemple. Il évoque bien des expérimentations en ce sens en Europe, mais bon, est-ce qu'on peut prendre au sérieux un continent sauvage attardé qui paye les jeux, qui paye les gens qui sont malades et qui n'utilisent même pas tous Apple Pay, hein, franchement, il faut être sérieux.
N'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Joe Rogan invite Bernie Sanders?
C'est le plus grand mystère, en fait.
C'est un mystère incroyable.
Bah, c'est qui, en fait, Joe Rogan, lui, il invite n'importe quelle célébrité si elle veut venir. Hein. Mais non, le truc, c'est qu'ils se sont rendus compte, hein, de toute façon, les démocrates se sont bien rendus compte que maintenant, bah, le podcast, c'était extrêmement intéressant, que les moyens d'information alternative étaient extrêmement utilisés par leurs concurrents et que ça marchait très, très bien. Je veux dire, Musk et Trump, bon ben voilà quoi. Trump, il a été en partie élu grâce au podcast, hein, grâce à Joe Rogan, en partie. En tout cas, il a bien contribué. Et donc, ben, les démocrates se disent, ben, il faut y aller aussi.
Effectivement. Bon, puis après tout, ils auraient tort de passer à côté d'une audience et d'une notoriété importante comme celle de Joe Rogan pour porter leurs idées, hein, après tout. En tout cas, avec de telles promesses sociétales grâce à l'intelligence artificielle, que ce soit en gain de temps ou en gain de productivité, on comprend bien dans tous les cas que l'IA, elle est promise comme un sujet majeur pour les boîtes américaines et puis peut-être même l'ensemble des boîtes dans le monde. Alors, ça explique en tout cas que Meta, comme on vous le relaie depuis quelques semaines, continue à recruter massivement et ça commence à même se sentir du côté de chez OpenAI, Guillaume.
Et oui, Sam Altman, dans le podcast aussi de son frère d'ailleurs, était catégorique, hein, face à l'opération de séduction de Meta. Aucun des meilleurs talents, de ses meilleurs talents à lui, n'avait succombé au charme subtil et viril, hein, de Mark Zuckerberg.
C'est
donc, on peut en déduire que les 8 personnes désormais qui ont claqué la porte sont des abrutis. Voilà. C'est pas cool pour eux, franchement, mais bon, ben voilà, c'est pas les meilleurs, quoi, c'est tout. C'est pas les crayons les plus aiguisés du pot. Bon, après 4 chercheurs la semaine dernière, d'après The Information, 4 autres seraient partis cette semaine. Donc, heureusement que c'est des chercheurs qui ne trouvent pas, apparemment, hein, sinon ça aurait pu être problématique.
Effectivement.
Ils vont intégrer un labo qui a désormais un nom, d'ailleurs, qui s'appellera, en toute modestie, Meta Superintelligence Lab. Mm-hmm. D'ailleurs, même si personne qui vaille la peine d'être mentionné est parti, OpenAI est quand même en mode panique. Mark Chen, donc, est chef de la recherche chez OpenAI, n'est pas tranquille. Il a dit, je cite, « C'est comme si j'avais été cambriolé. Bon. » Chen affirme aussi que les cadres dirigeants, Altman y compris, hein, sont en mode veille H24 pour identifier les employés contactés par Meta et qui se jettent dessus pour discuter, ajuster les compensations et, je cite, « trouver des manières créatives de récompenser les meilleurs talents ».
Du fric !
Créative ? Qu'est-ce que ça veut dire créative ? Donc c'est quoi ? Si vous faites une bonne IA, vous avez droit à quoi ? Une Porsche, un kilo de coke et 3 puces ? C'est quoi le...
Ça, c'est très créatif.
C'est créatif, ça. Bon, ben,
tu devrais leur envoyer les suggestions, effectivement.
Créatif, c'est un adjectif assez inattendu quand même, et qui évidemment enflamme l'imagination. Je suis très curieux de savoir si The Information aura des détails à propos de cette créativité.
Effectivement, ben, on aura hâte de les relier en tout cas. Encore une illustration de ce que permettent les avancées technologiques. Plusieurs infos du côté de Google, des infos avec des innovations assez transformatives. On va jeter un œil dans un premier temps sur la recherche de Google. Mais, alors attention, quand on dit recherche chez Google, on ne pense pas forcément à ça, mais c'est la recherche académique et scientifique, hein, évidemment. Pas le moteur de recherche, ça on en parle, mais juste après. Avec DeepMind, qui a un nouvel objectif, mieux, et pas des moindres, hein, mieux comprendre les fonctionnements de l'ADN, Guillaume.
Oui, on passe chez DeepMind, qui a pris goût au prix Nobel, hein, qui continue de sortir des IA pour les scientifiques. Que c'est pas très facile de voir précisément ce qu'elles font d'ailleurs, mais que ça a l'air super cool, hein, à vue de journalistes tech comme ça. Ça a l'air assez cool. C'est, donc, ils ont fait AlphaFold pour plier des protéines et tout ça, et ça leur a fait le prix Nobel quand même. Donc là, ils reviennent avec Alpha Genome qui s'occupe de génétique hein, et de gènes, voilà, et tout le bordel. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il prévoit les conséquences d'une mutation. Donc, c'est une sorte de GPT pour l'ADN, mais qui prévoit les conséquences des mutations au niveau moléculaire. Hein. Donc, c'est pas un truc précis du style, tu vas avoir les yeux bleus, les pieds palmés ou le menton en avant. C'est juste des trucs beaucoup plus précis et spécifiques sur l'expression de tel gène qui active la production de telle molécule ou pas, machin. Mais bon, ça pourrait faire gagner du temps, évidemment, parce que sinon, il faut faire des expériences ou alors, voilà, c'est compliqué, quoi. Et évidemment, un toubib arrive avec des mutations qu'il a repérées dans une maladie rare chez quelqu'un. Et Alpha Genome, il va pouvoir donner des suggestions sur quelles mutations pourraient poser problème. Donc c'est vraiment un truc pour les généticiens quand même. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas du tout grand public. C'est assez difficile de voir concrètement ce que ça fait. Donc,
on va pas l'utiliser demain, quoi, toi et moi.
Aucune idée. Non, mais certainement pas. Hein. Aucune idée d'ailleurs d'à quel point ça va transformer la vie dans les labos. Hein. Sans doute pas encore tant que ça d'ailleurs. Mais c'est sûrement un outil intéressant. Et voilà, est-ce que ça vaudra à DeepMind son deuxième prix Nobel, je ne sais pas.
On leur souhaite, on leur souhaite. On a encore, ils n'ont pas besoin d'ADN, eux, pour fonctionner. Ils sont pourtant promis à un bel avenir, Guillaume, ce sont les robots. Et dans ce domaine aussi, l'intelligence artificielle et les nouveaux modèles de Google DeepMind permettent des progrès remarquables.
Oui, c'est une autre news qui va être assez courte à décrire, mais qui est, je pense, vraiment impressionnante et importante. Les modèles Gemini de robotique passent en offline. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'on avait parlé de ces modèles de robotique de DeepMind qui permettaient de donner une intelligence au robot, hein, tout simplement. Donc, une sorte de bon sens, une capacité d'interpréter son environnement directement, visuellement. Il y a un grand modèle multimodal qui était vraiment comme une sorte de Gemini qu'on peut utiliser au quotidien, hein, voilà, qui produit du texte, qui peut interpréter des images, mais qui aussi, dans le cas de la robotique, peut produire des séquences d'action, des commandes d'action pour les robots. Donc, c'est ce qu'on appelle des VLA, pour Vision Language Action Models, qui fonctionnent comme les chatbots. Hein. On prend un contexte, effectivement, ici c'est la vision, la position, les instructions, et on produit une action. Et après, évidemment, cette action va le faire bouger le robot, et donc le contexte est modifié, et rebelote, on recommence, voilà, c'est ça la boucle de gameplay, quoi, si vous voulez. Les modèles Gemini robotiques sont agiles, ils peuvent piloter des robots humanoïdes ou juste des bras mécaniques. Hein. Ils font des tâches assez délicates, comme manipuler des petits objets, ouvrir des sacs, des fermetures éclairs. Et des fermetures éclairs, ils apprennent très vite. Comme ils ont une base de savoir un petit peu... intuitif, il leur faut pas énormément de démos pour pouvoir reproduire ce qu'on leur montre. Et ils répondent aussi à des instructions en langage naturel. Donc, je mets le Rubik's Cube dans le sac ou prends la pomme verte dans l'assiette, ce genre de truc. Et l'an dernier, on parlait déjà de tout ça, hein, et c'était déjà très intéressant, mais c'était pas très rapide. Et puis, ça demandait un modèle très costaud dans le cloud, des modèles successifs d'ailleurs qui utilisaient les modèles du moment de Google. Quoi. Donc, il y avait une première version avec Palm. Et puis une version avec Gemini plus tard. Et là, c'est pareil en fait. Hein. Sauf que le modèle d'IA tourne directement dans le robot.
C'est remarquable.
C'est une version compressée, qui est un petit peu plus petite, mais qui est presque aussi bonne que la version cloud. Donc on se retrouve donc avec un robot qui est complètement autonome et qui peut travailler sans aucune connexion Internet, comme vous. Quoi, hein. C'est-à-dire vous aussi, vous n'avez pas besoin d'Internet pour lâcher vos chaussures, lui non plus. Donc il peut faire tout ça tout seul, comme un bon petit Terminator. Parce que jusqu'à présent, si ça avait été un Terminator agressif, un Terminator qui doit être connecté à son serveur pour tout, s'il t'attaque, t'as qu'à couper le Wi-Fi, quoi. Tu vois, c'est pas très compliqué, pas très effrayant. Mais là, par contre, non, les robots embarquent leurs propres intelligences et donc ils peuvent rester dangereux en toutes circonstances.
Ah, je suis parfaitement rassuré, Guillaume. Qu'est-ce que je suis enthousiaste à l'arrivée de nos robots. Bon, il y a aussi des belles choses qui peuvent arriver, j'imagine. Et puis, alors, je vous le disais juste tout à l'heure quand je mentionnais Google et la recherche, on va aussi regarder ce qui se passe du côté du web. Google, là aussi, risque de, probablement une fois de plus, mais là, plus profondément, durablement changer la manière dont fonctionne Internet. Il y a les AI overviews, hein, c'est quoi ? C'est les aperçus par intelligence artificielle, si je dois les traduire, je ne sais pas quelle est la traduction officielle, mais qui font ces résultats par intelligence artificielle sur lesquels vous n'avez même plus besoin d'aller cliquer sur le site web, qui vont probablement phagocyter largement la consultation des sites web, telle qu'on connaissait cette consultation auparavant, Guillaume.
Oui, et puis alors, c'est même... Voilà, tout ce que je vais dire, c'est atroce, mais c'est rien du tout comparé au AI Mode, qui est le pas d'au-dessus, qui est le Perplexity de Google, quoi, hein, ou le ChatGPT de Google qui fait les recherches à ta place. Mais bon, Google a le sens des priorités. Hein. L'IA menace l'emploi, le climat et les fondements du web, et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est du relooking. c'est vrai, hein,
c'est vrai.
Alors, c'est Google de relook. Alors, non, mais c'est vrai que j'ai vu ça.
Ma chérie.
Exactement. Et c'est pas la première fois en plus. Hein. Google, je crois que c'était une Google I.O. On avait vu une fonction qui permettait d'envoyer une photo de toi. des photos de fringues trop super et il faisait un rendu IA de toi avec les fringues. Alors, j'ai jamais utilisé la fonction de ma vie, je sais pas. Toi, si
ah bon c'est... Ça m'étonne, moi, oui, Guillaume. J'aurais bien pensé que tu irais tester comme ça ton look avec Google.
Mais... En tout cas, ça fonctionnait déjà en photo, mais avec Doppel, ça s'enrichit de la vidéo.
Ouais.
C'est pareil qu'avant. Hein. T'envoies la photo de toi, t'envoies la fringue, il te montre à quoi tu ressembleras, ma chérie, effectivement. Hein, hein. Et il t'anime, c'est-à-dire tu te vois, toi, bouger, te tourner, te retourner.
Donc, ce qui techniquement doit être génial. Techniquement, c'est super.
Oui, oui, c'est super, c'est super. L'animation te montre en pied, en train de tourner sur toi-même. Donc, il doit inventer l'arrière des fringues, ce qui doit t'amener probablement des bonnes barres de rire, mais bon. Était-ce bien nécessaire de rajouter de la vidéo à ça c'est, je ne sais ouais. pas. Après, si tout le monde commence à faire des shorts avec VO3, de toute façon, c'est ce que ça fait. Fondamentalement, je ne sais pas. Mais bon, c'est pour, en ce qui concerne le web, hein, on commence à avoir des chiffres sur la baisse de fréquentation des sites à cause de l'IA. En particulier, Bright Edge, une boîte d'analyse de trafic, montre que rien que les AI Overviews hein, de Google ont généré plus d'impressions dans les résultats de recherche, mais moins de clics. 30% moins de clics, alors qu'il y a jusqu'à 49% d'impressions en plus.
Ne serait-ce pas logique, finalement, quand tu placardes ces trucs, est-ce que tu as vraiment envie de cliquer derrière, finalement
eh ben enfin, oui.
Ça me semble tellement logique.
Donc, il y a plus de gens qui utilisent Google pour répondre à leurs questions, mais il y en a moins qui vont directement sur les sites, contents de rester sur Google. En mai, il y a une première enquête qui concluait que le déficit de trafic dû à AI Overview était assez sévère. Hein, c'était 2/3 sur les PC fixes et presque la moitié sur mobile. Parce que, ben, en gros, alors, c'est assez différent selon les classes d'âge, en fait. Et les jeunes acceptent sans se poser de questions les réponses de l'IA, globalement. Hein. Donc, de ceux qui cliquent pour aller plus loin, il y en a 1/3 qui vont sur Reddit ou YouTube. Donc, il y a encore une autre étude qui date du mois d'avril qui annonçait une baisse de 34,5%. Bon, alors, voilà, tous ces chiffres sont un peu différents, mais enfin, ils pointent dans une tendance qui est quand même assez claire et qui contredit nettement Sundar Pichai, qui nous a enfumé grave en affirmant que les AI Overviews allaient augmenter la fréquentation.
Quel mytho, celui-là.
Voilà, c'est complètement mytho, exactement. En fait, la situation est encore plus grave, hein, parce qu'à côté de Google, qui est en train de faire muter Search, avec donc AI Overview et le AI Mode, hein, bientôt, il y a tous les candidats qui se bousculent pour remplacer carrément Google, comme Perplexity, ou ChatGPT lui-même. Hein. Et d'après Matthew Prince, donc c'est le CEO de Cloudflare, la situation poursuit une tendance effrayante hein, qui littéralement est en train d'étouffer le web. Il y a 10 ans, Google parcourait 2 pages pour chaque utilisateur qu'il envoyait. Donc c'est un ratio de 2 pour 1 entre clics et pages référencées par Google. Il y a 6 mois, ce ratio est passé à 6 pour 1. Aujourd'hui, il est à 18 pour 1. Et pour OpenAI, aujourd'hui, c'est 1500 pour 1. Pour Anthropic, c'est 60 000 pour 1. Bon, je ne sais pas exactement comment ils arrivent à chasser, mais enfin, c'est Cloudflare, ouais. Donc ils voient placer tout le trafic à hein, Cloudflare. Donc...
Ils ont de la data, ouais. Ils peuvent faire des projections assez réalistes,
donc,
c'est les mieux placés.
Ils voient passer des robots probablement qui s'identifient comme ci ou comme ça, ils peuvent avoir une idée de ce genre de quantité. En tout cas, la conclusion est simple, hein, c'est que personne ne lit la page de la bibliographie et personne ne clique sur le lien. Tout ce dont tu as besoin déjà sous tes yeux, bah, tu cliques pas, tu t'en fous.
Quand
tu
as les ingrédients et la recette, tu n'as pas besoin d'aller cliquer sur le site web pour avoir plus de pubs.
Non, donc il y a péril en la demeure, hein, en la demeure du web. Et Google en a conscience, puisqu'il fait même semblant d'en avoir quelque chose à foutre. Ils viennent de lancer un truc qui s'appelle Offerwall, qui est un outil pour permettre aussi de faire plus de fric avec un trafic en berne. Donc de presser plus les utilisateurs qui viennent encore, tout simplement. En gros, c'est une boîte à outils pour rendre ton site un peu plus chiant et un peu plus payant.
C'est magnifique.
Avec des pop-up ou des pubs, des micro-paiements, des newsletters, plus ou moins de paywall un peu partout. Et attention, hein, une IA peut décider quand afficher un offer wall. Une IA qui détermine quand tu es le plus dans la dèche, en fait, hein, comme c'est ironique. Et donc, on peut considérer qu'offer wall, c'est une admission qui a un souci, quoi. Hein, mais bon, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Parce qu'en vrai, est-ce que ça marche? Bah, de toute façon, non. Il n'y a pas à tortiller. Hein, le web gratuit est menacé, très sérieusement. Mais la plupart des gens n'ont pas envie de payer. Et les solutions à base de microtransactions, il y en a eu par le passé déjà. Il y a eu des tentatives et elles n'ont pas marché vraiment. Hein. Donc, l'avenir du web est plus que jamais en question.
Patreon.com/techcafé, j'en profite. Puisque je ne pourrais pas massivement vous rediriger sur techcafé.fr. Quoique si, hein, allez-y. Il y a des personnes qui me disent, tiens, il y a des personnes qui réécoutent évidemment tes excellents dossiers, Guillaume, notamment l'intelligence artificielle, comment ça marche. Qui arrivent à la fin de la première partie et qui disent mais je trouve pas la deuxième. Alors pourtant il y a tous les liens hein, qui ramènent vers le second épisode puis le note de l'épisode etc. Mais vraiment sur techcafé.fr il y a absolument tout. Donc vous voyez j'en profite pour vanter les mérites d'avoir un bon vieux site web, ça marche bien aussi. Guillaume, on termine cet épisode dans sa rubrique news tech telle que d'habitude. On va avoir une petite rubrique jeux vidéo juste dans la foulée, mais juste un sujet qui a été abordé en fil rouge durant ces derniers mois et qui visiblement continue à nourrir la recherche, c'est les modèles qui réfléchissent.
Et oui, Les chatbots qui réfléchissent, qui sont très à la mode, hein, et on essaye de mieux les comprendre, et sur le chemin, on a des surprises. Donc déjà, on avait parlé d'une étude qui montrait que les modèles qui réfléchissent n'ont pas de capacité supplémentaire par rapport au modèle de base, dont ils sont issus. Hein. Si on prend un modèle de base et qu'on en fait un modèle qui réfléchit, donc en le surentraînant par renforcement, hein, ce modèle, il ne va pas pouvoir résoudre des problèmes que l'ancien ne pouvait pas résoudre. C'est contre-intuitif, et pourtant, c'est bien la conclusion. Hein. Les modèles qui réfléchissent résolvent les mêmes problèmes, mais vous avez une plus grande probabilité qu'ils vous donnent la réponse, en fait, tout simplement. En fait, la distribution de probabilité qu'incarne le modèle de langage de base est juste un tout petit peu tordue pour que les solutions que le modèle est capable de générer soient beaucoup plus probables. Enfin, que les bonnes solutions soient beaucoup plus probables. Mais si le modèle de base ne sait pas du tout résoudre un problème, ben le modèle qui réfléchit ne le pourra pas non plus. Intuitivement, c'est assez cohérent avec une autre recherche récente sur le sujet, qui montre que quand on entraîne un modèle à réfléchir, en fait, on le modifie que très peu. Ils ont fait des expériences sur des modèles open source, hein, et en gros, 80% des poids du modèle ne changent pas. Les trois quarts ne sont même jamais touchés. Il y a une petite partie qui est altérée, qui revient au point de départ, et il y a 20% qui reste, qui forment de petits sous-réseaux, qu'on peut d'ailleurs entraîner indépendamment, et on arrivera en fait au même résultat, c'est-à-dire un modèle qui réfléchit quand même exactement pareil. Donc ça confirme que l'entraînement par renforcement à la réflexion ne change pas en profondeur le modèle. Le modèle reste fondamentalement le même. En termes un poil plus mathématiques, on peut dire qu'on entraîne le modèle sur des exemples qui ne sont pas vraiment hors distribution. En fait, ils ressemblent à ce que le modèle a l'habitude de voir. Ils ne sont pas trop loin, statistiquement parlant. Et donc, bah, ce n'est pas la peine de mettre beaucoup à jour la distribution qu'on a déjà construite. En fait. C'est pour ça que finalement, les modèles ne sont pas vraiment beaucoup mis à jour. Mais il y a plus étrange avec ces modèles. Beaucoup plus bizarre. Il y a une autre étude qui a été faite par l'Institut Allen, Washington et Berkeley, donc les universités de Washington et Berkeley, qui pose vraiment des questions sur la nature de ces trucs-là et comment on les entraîne. Les chercheurs ont une idée bizarre. On prend un modèle de base, et puis on va l'entraîner par renforcement pour devenir un modèle qui réfléchit, d'accord, mais on va le faire n'importe comment, littéralement n'importe comment. On va faire des conneries exprès. Parce que comment on entraîne par renforcement? Ben, on va entraîner par renforcement en récompensant le modèle quand il fait ce qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, on va donner un problème de maths à un LLM, et puis on le récompense quand il donne la bonne réponse. Qu'est-ce qui se passerait si on le récompensait quand il donne une réponse fausse? Ou bien n'importe quelle réponse, pourvu qu'elle soit bien formatée? Ou bien si on lui donnait des réponses complètement au hasard? Bon, a priori, c'est évident que ça donnerait un modèle complètement nul.
Oui, il ne devrait pas être très pertinent quand même.
Et c'est le cas, mais pas pour tous. Et ça, c'est assez dingue. Alors pour Olmo et Llama 3, le 3.1 en l'occurrence, hein, effectivement, l'entraîner n'importe comment le pousse à faire n'importe quoi. Et donc à devenir n'importe qui, j'imagine. Sauf que il y a Quen 2.5. Et Quen 2.5, lui, c'est un original. Parce que lui, il devient meilleur que le modèle de base, quelles que soient les conneries qu'on lui demande. Il gagne 29% de performance si on fait les choses bien, comme il faut, normal quoi, avec les bonnes réponses. Et il gagne 21% si on le récompense au hasard. Et il gagne 24% si on le récompense sur les mauvaises réponses.
Ah la vache! Ah oui, donc en fait, on peut lui dire « Ah, c'est bien, quelle que soit sa réponse, il est content, il va s'améliorer quand même. »
Exactement, et ça, c'est très, fou, très ça. Étrange. Ah, oui, il ne gagne pas autant de performance qu'avec les bonnes réponses, mais c'est quand même à n'y rien comprendre.
La différence n'est quand même pas énorme, finalement. Il y a plus de progrès entre le 0 et le 20 qu'entre le 20 et le 27. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est dingue quand même.
Ben oui, c'est complètement dingue. Et d'ailleurs, on n'a pas encore tout à fait compris, d'autant que l'article, pour des raisons de moyens, n'inclut finalement que 4 LLM. Donc, on ne sait absolument pas comment réagirait un Mistral, un Claude, un ChatGPT. Voilà, il faut les comprendre aussi. Hein. Pour chaque cas de réponse complètement débile, pour chaque manière de faire complètement débile, il faut refaire l'entraînement de 4 modèles. Et puis, bon, à la fin, ça coûte cher quand même. Donc, pourquoi Quen 2.5 en version standard et maths, d'ailleurs, se comporte-t-il comme ça? Une piste de réponse viendrait de la manière dont les modèles intrinsèquement sont entraînés sur des raisonnements. Parce que Quen a une particularité par rapport aux autres, c'est qu'il pense en code spontanément. On ne sait pas pourquoi ces modèles, parce que ces modèles ont beau être ouverts, comme on dit, ils ne sont pas vraiment open source, on n'a pas accès aux données d'entraînement, et donc on ne sait pas exactement pourquoi. Donc ça pourrait aider, donc ça montre à quel point ce serait important pour la recherche d'avoir des modèles qui sont vraiment open source. Mais bon, passons.
Quelque part, on peut les étudier, mais on ne peut pas les comprendre avec leur histoire, c'est ça, quelque part, leur entraînement.
Oui, c'est ça, on n'a pas leur éducation, quoi. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser, on peut les décortiquer, on peut regarder dedans, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut les modifier aussi. Mais on n'a pas leur histoire, tu vois, raconte-moi ton histoire, tu vois. Oui, tu ne
connais pas son papa, sa maman, est-ce qu'il a vécu?
Exactement, bah ouais. Tu vois, t'es allé où au collège? Bon, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quelle est leur éducation? Comment ils ont été construits, quoi. En tout cas, donc, pour revenir donc à Quen 2.5, parfois, quand tu lui demandes de résoudre un problème, ben, il va passer par un programme en Python. Apparemment, spontanément, de temps en temps, il synthétise les choses en Python. Ça, il formalise.
Ça, c'est mon frère, il fait ça. Je lui demande un truc et tout de suite, il sort son terminal pour faire du Python.
Et mais tu vois, mais c'est marrant. Hein. Et ça vient peut-être de données synthétiques conçues par Alibaba. Hein. On ne sait pas. Mais en tout cas, cette propension à formaliser, à penser en code, elle est largement amplifiée par le processus de renforcement. En fait, c'est ça que ça fait. C'est que le code 2.5 va se mettre à penser en code beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire à faire des programmes aussi beaucoup plus longs. Mmh. Et ça, apparemment, c'est bénéfique. Et donc, il permet à Quinn de mieux s'en sortir. En fait, même si on le récompense sur des résultats faux, le renforcement va amplifier cette voie de raisonnement. Et en fait, on se rend compte que entraîner un modèle à réfléchir, en fait, ça ne change absolument pas le modèle. Ça va amplifier des voies de raisonnement qui sont préexistantes dans le modèle de base. Les modèles, tels qu'ils sont construits, les modèles de base, ils réfléchissent d'une certaine manière parce qu'ils ont vu pendant leur entraînement des raisonnements de certains types. Et donc, ils ont des manières de réfléchir. Et donc, ces manières de réfléchir, en fait, le renforcement va amplifier certaines qui, il se trouve, collent bien avec la manière dont on récompense le truc.
OK.
Tu vois, donc ça, dans Quen, c'est le raisonnement par le code qui est amplifié dans tous les cas. Et il se trouve que c'est bénéfique pour raisonner en maths parce que, puis en Python, c'est vrai que c'est formalisé, c'est logique, etc. Les autres modèles étudiés n'ont pas cette capacité. Ils ne savent pas raisonner en code, en fait. Spontanément, ils ne le font pas. Et en fait, ils sont même pas très doués en code tout court. Les lamas, par exemple, à la base, ils ne sont pas super doués en code. Ils ne sont pas vraiment faits pour ça. Et donc, pour que ce soit Olmo ou lama, ils ne sont pas très, très bons en code. Ils n'ont pas vu de raisonnement en code particulièrement.
Okay.
Et donc, spontanément, ils ne réfléchissent pas comme ça, en fait. Mmh. Et du coup, ils ne bénéficient pas autant que Quen d'un entraînement par renforcement. Donc, même par renforcement standard, en fait, et surtout pas par renforcement débile. Donc, encore une fois, on a un indice qui nous dit que l'entraînement par renforcement des modèles de réflexion ne fait que renforcer des mécanismes et des capacités qui sont déjà présentes dans le modèle de départ. Donc, du coup, ça veut dire aussi qu'on a peut-être cru un peu vite que le raisonnement serait un relais de croissance durable par rapport au pré-training. Et c'est peut-être pas le cas. La phase de pré-training est fondamentale, parce qu'un modèle de base faible restera faible, même s'il réfléchit longtemps, même s'il réfléchit très 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 longtemps.
Bon, j'ai l'impression que ça peut être des signaux d'alerte, parce qu'a priori, il n'y aura pas des relais de développement comme ça sur les IA massifs. Bon, en tout cas, tu viens de nous démontrer qu'il y avait peut-être des soucis à se faire sur les modèles qui réfléchissent. Et je sais que c'est un sujet qui fait coller beaucoup d'encre dans la recherche ces dernières semaines et ces derniers mois. On verra ce qui se passe sur la seconde partie de l'année 2025 à ce sujet. J'ai fort à parier qu'il va encore y avoir des travaux de recherche qui seront intéressants et qu'on vous relaiera. On va passer à une petite, mais néanmoins savoureuse rubrique jeux vidéo. Et justement, là, on parle d'intelligence artificielle depuis tout à l'heure. On va continuer à en parler un petit peu sous l'angle du jeu vidéo. Pas trop, hein, promis. Mais on va s'y attarder un petit peu parce que c'est la conception des jeux à l'avenir qui pourrait largement être impactée. Encore un domaine où l'IA risque de tout changer, Guillaume, encore une fois.
Oui, enfin, je ne sais pas. En tout cas, Runway se lance dans le jeu vidéo. Ça, c'est la news. Donc, Runway, donc cette boîte qui fait donc des générateurs vidéo, des générateurs d'images, et se lance un petit peu dans le jeu vidéo, un tout petit peu, puisqu'elle, alors elle appelle ça un AI Game Engine, effectivement, mais ne vous y trompez pas. Hein. En fait, c'est juste un nouveau AI Dungeon.
C'est pas un concurrent de l'Unreal Engine.
Pas vraiment, non. Vous pouvez faire un truc assez proche de ça chez vous en utilisant Cobalt CPP, une bonne carte graphique d'ailleurs.
Okay.
C'est vraiment ça, hein. Vous jouez un jeu de rôle textuel avec un maître de jeu IA qui invente au fur et à mesure et qui maintient un vrai état du jeu, c'est vrai. Donc il y a, vos PV, votre or, tout ça qui est maintenu. Et puis, il y a une touche en plus, c'est que, c'est pas non plus révolutionnaire, c'est qu'il y a des illustrations automatiquement qui se génèrent, puis tu peux en demander d'ailleurs, hein, pour illustrer le jeu. Ils illustrent ça avec des images. Et puis, probablement, ils utilisent aussi la nouvelle fonction d'image de référence sur Runway, qui se déploie enfin et qui permet une certaine cohérence des personnages et des environnements. Donc, tu as toujours la même tête, plus ou moins, et tu as toujours les autres persos ont plus ou moins la même tête. Donc, vous pouvez créer et partager des scénarios. C'est assez marrant, c'est toujours un peu maladroit. Hein. D'ailleurs, le LLM derrière reste gentil. Ces LLM, ils sont gentils, tu sais. Et donc, en gros, quand t'es un petit peu dans la mouise, tu lui demandes un snack, et puis il te donne à manger, il te donne à boire, il te donne 10 PV gratuits. Bon. C'est un maître de jeu vraiment très, très sympa. Donc, on est très loin d'un moteur de jeu, comme on l'entend aujourd'hui, bien sûr. Hein. Mais il y a par ailleurs des progrès dans la génération vidéo interactive qui montrent qu'on peut envisager des illustrations qui pourraient devenir des environnements à visiter un jour, hein, dans le cadre, par exemple, d'un AI Dungeon, d'un Runway comme ça. Là. Alors, on a les tout derniers trucs, c'est que premièrement, on a Yuan Yan, c'est un truc comme ça, hein, Donc Nyan Nyan Gamecraft, je l'appelais Nyan Nyan parce que c'est comme
c'est mignon,
comme Nyan Nyan. Donc Nyan Nyan Gamecraft, c'est un générateur vidéo qui est spécialisé dans le look jeu vidéo, en fait, vraiment. Et qui est interactif, hein, dans le sens où vous pouvez vous déplacer dedans. Ça rappelle énormément Muse de Microsoft, donc, dont on avait parlé, un modèle dont on avait parlé, qui simulait aussi des jeux vidéo. Donc Nyan Nyan produit des choses assez jolies, hein, sur les démos, et accepte des inputs multiples. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez vous avancer en tournant la tête, quoi, ce qui est assez conforme à ce qu'on attendrait d'un vrai jeu vidéo.
C'est
Il y
mieux.
A divers mouvements de caméra supplémentaires, et la mémoire des lieux est bien préservée sur quelques mètres. Alors, plus qu'un moteur de jeu, encore une fois, c'est plus une génération vidéo qui peut être guidée en temps réel. Ce qui est déjà cool en soi, hein, de base. Hein.
C'est chouette, ouais.
Et justement, ce problème de mémoire est central, hein, si on veut aller plus loin, évidemment, si on veut aller littéralement d'ailleurs. Littéralement dans le monde imaginé par l'IA, parce que sur Muse ou sur Nyan Nyan, avancer dans un couloir de 10 mètres, bah, tu avances de 10 mètres, tu reviens, bah, la pièce c'est plus la même. Hein, t'es plus
ouais, c'est embêtant ça. Ouais.
Donc c'est, voilà, alors vous n'êtes pas dans Blueprint, ça, c'est juste que le modèle a tout changé. Voilà, les premières images sortent de la fenêtre de contexte, tout simplement, uh-huh. Donc bah, ils réinventent totalement un autre truc quand tu reviens. Alors c'est ballot, hein, et donc pour corriger ça, Oxford, ils ont une idée. Ils ont une solution, on va dire, qui s'appelle VMEM, qui est donc VMEM, c'est Visual Memory, tout simplement, et c'est une prothèse, hein, c'est une prothèse cérébrale au générateur. Et l'idée, c'est de construire une mémoire des volumes générés par le modèle au fur et à mesure. Cette mémoire est faite de surface elements, et elle est générée au début de, bah, quand tu marches, elle est générée au début, quoi, pour cartographier en fait les lieux qui sont générés. Et puis, bah, quand tu reviens sur tes pas, cette mémoire, elle va être utilisée pour conditionner la génération vidéo. Donc, ce que tu vas voir va coller à ce qu'il y avait avant.
D'accord, donc c'est pas il réutilise, c'est vraiment il recalcule en collant avec ce qu'il a déjà vu.
Voilà, en collant avec ce qu'il a déjà vu. Donc, on a une cohérence qui est bien meilleure, hein, pour autant que la mémoire en surface ne soit pas elle-même dépassée, parce que c'est la mémoire d'un lieu, en gros. Et donc, bah, si vous êtes dans un autre lieu, il faut une autre mémoire, il faut un autre buffer des mémoires de surface. Ou si vous allez trop loin, bien entendu, hein, il n'y a pas de miracle non plus. Donc, il y a des progrès qui pourraient rendre ces trucs viables pour des petites expériences ludiques ou des visites ou des trucs assez basiques. Enfin, évidemment, c'est des mondes qui sont vides, hein, de trucs qui bougent ou interactifs. Mm-hmm. Mais par contre, pour la génération vidéo, c'est quand même sympa parce que ça ouvre la voie à une forme de mise en scène en temps réel. Parce que c'est comme si tu pouvais manipuler une caméra dans la vidéo générative. Au lieu de demander que la caméra fasse ceci ou cela, c'est toi qui manipules la caméra dans cet espace de rêve, quoi, un espace qui est rêvé par l'IA. Et donc, ça te permet de contrôler beaucoup mieux ce que tu vois, ce que tu as envie de montrer, etc. Donc, ça peut être intéressant.
Trop bien. Alors, ça, je suis sûr que ça va progresser, mais on sent que ça, y a pas eu encore de gap qui fait que c'est pleinement utilisable, hein, j'ai l'impression, dans la génération comme ça d'environnement de jeu ou interactif. Je me trompe peut-être, hein, mais on est beaucoup sur des documents de recherche. Il n'y a pas eu de bascule comme ça, comme c'est le cas pour d'autres éléments de modèles génératifs. Guillaume, on va conclure avec un ultime sujet et je voulais te remercier d'avoir sélectionné cette info qui va peut-être, allez savoir, hein, me rassurer et rassurer une partie des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent. Honnêtement, je commençais à m'inquiéter parce que bon, il était à nouveau question là des PlayStation 5 qui avaient des soucis si elles étaient positionnées à la verticale. On imaginait un liquide qui devait fondre comme ça pour toutes les PlayStation 5 qu'on mettait à la verticale. Guillaume, est-ce qu'on doit paniquer tout de suite ou plus tard ?
Plus tard. En fait, c'est le retour d'une lentille ancienne des joueurs PlayStation 5, hein, ouais. Le métal liquide qui coule. Parce que Sony a eu l'idée brillante d'utiliser du métal liquide comme interface entre le CPU et le radiateur, à la place d'une bonne vieille pâte thermique, hein, sur la PlayStation 5. Et assez vite, on a eu des photos horribles de métal liquide qui coule et qui, du coup, puisqu'il se barre, il ne fait plus son boulot. Hein, donc, les PlayStation 5 surchauffent et se coupent. Alors, début 2023, cette affaire avait été classée sans suite. On pouvait lire que c'était pas un problème si vous aviez pas ouvert votre console comme un gros cochon, quoi. Et puis, et que normalement, si la console était. Si vous n'avez pas touché, il n'y avait pas de problème, quoi. Mais le problème, c'est que là, on est 2 ans et demi plus tard. Et que les premières PS5 se font vieilles. Et le dossier ressort. Et on peut voir pas mal d'exemples sur Reddit, c'est vrai, de joueurs désespérés avec des coulures. Et des PS5 à moitié mortes. Alors, comme tout le monde, ils les utilisaient à la verticale, hein, évidemment, puisque c'est le seul moyen de caser l'énorme cul de cette console après le prêt de sa télé.
C'est tellement vrai.
Étant donné la monstruosité que c'est, hein, je veux dire. Oui, parce que je la trouve vraiment hideuse et énorme. Désolé, la PS5.
Elle est bien grosse. Et même la version Slim, elle n'est pas...
Oui, c'est vrai que la version Slim est un peu plus... C'est quand même beaucoup plus. Vraiment. Ouais. Même la version Slim. Hein. Dernièrement, dans une vidéo de la chaîne Moore's Law is Dead, un développeur en parlait en évoquant qu'il y a sans doute, d'après lui, bon, parle de 3% des PS5 qui seraient concernés et qui seraient hors garantie d'ailleurs. Hein. Donc il y aurait des retours en réparation des premières PS5 qui exploseraient, ce qui me rappelle le bon vieux temps du Red Ring of Death de la Xbox 360. On ne parle pas de chiffres officiels, évidemment, parce que Sony ne dit absolument rien dessus. Cela dit, il a légèrement modifié sa PS5 Pro en ajoutant des rainures sur les CPU pour limiter le problème. Peut-être pas pour ça, je ne sais pas, mais probablement un peu, je ne sais pas. C'est difficile de dire à quel point c'est un problème qui est vraiment aussi répandu. On n'a aucune impression. Reddit, elle reste ce qu'elle est. Je veux dire, sur Reddit, effectivement, oui, j'ai vu passer des trucs comme ça. Oui, il y a plein de témoignages. Maintenant, évidemment, hein, c'est Reddit, quoi. Donc, c'est très difficile d'avoir des statistiques. Après, la logique pure reste la même. Hein. Soyons logiques. Hein. C'est un liquide qui est piégé entre le CPU et le radiateur. Ce liquide, il est retenu par un joint, comme tous les liquides, quoi. Hein. Et donc, s'il y a la moindre fuite et que la console est à la verticale, le liquide se barre. Ça, c'est sûr. Et évidemment, ben, ce joint, il va vieillir. C'est obligé. Et en plus, c'est une jointe qui chauffe beaucoup. Donc, il y a des contraintes thermiques, à mon avis, qui doivent user le joint. Et donc, il est très probable qu'à un moment donné de l'usure du joint, ben, ce ne serait pas très surprenant qu'il y ait des fuites. Et au fur et à mesure que les années passent et que vous faites chauffer votre PlayStation 5 sur vos jeux, ben oui, hein, il est possible que ce joint se fissure ou voilà, parte en couille. Donc en conclusion, si vous avez une PS5, ben oui, il est plus prudent de la mettre à l'horizontale. Ne serait-ce que sur le long terme, hein, ça ne vous arrivera peut-être pas maintenant. Mais effectivement, il y a une chance qu'il y ait des fuites à un moment, c'est tout à fait possible. Et si vous la mettez à l'horizontale, ben évidemment, ça ne va pas couler, quoi. C'est un problème pour l'occasion aussi, attention, hein. C'est un problème très emmerdant, parce que ça veut dire que si dans 3 ans j'ai envie d'acheter une PS5, ben cette PS5, elle aura des heures de vol, hein. Elle aura été utilisée comme toutes les PS5 à la verticale, et du coup, ça donne pas super confiance, quoi, tu vois. Donc voilà, toi, ça me conforte dans mon impression que la Series X est une console beaucoup mieux conçue que la PS5, dommage qu'elle se soit si mal vendue, même moins que la Xbox One, c'est pour te dire.
Ouais, c'est sûr. Faites du home staging et puis trouvez un moyen de mettre votre PlayStation 5 à l'horizontale pour prévenir l'avenir. Merci beaucoup Guillaume pour ta veille et la préparation de cet épisode. J'espère que vous qui nous écoutez avez passé un bon moment en notre compagnie, que ce soit pour cet épisode ou pour tous ces épisodes de cette saison, et même peut-être pour les plus valeureux, pour tous les épisodes depuis le début de Tech Café. Allez savoir, il y a des fidèles parmi les fidèles. Il est grand temps d'arriver à notre traditionnelle conclusion, celle où je peux te demander, Guillaume, où on te retrouve.
Ben, on me retrouve en vacances, là, hein, justement. Donc, je ne serai pas là la semaine prochaine et je reviendrai sans doute pour un épisode rétro, comme d'habitude, et peut-être autre chose, mais je ne sais pas. En tous les cas, ça, c'est la trêve estivale. Hein, donc là, on va me retrouver à jouer à Expedition 33, que j'ai un peu lâché cette semaine, sur une Xbox à la verticale, dans le programme local.
Le comble, ce serait que tu joues avec une Xbox à l'horizontale, tu vois, ne serait-ce que par souci de contradiction. Ce serait drôle. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Blue Sky, sur Threads, Mastodon, Instagram, tout ça, tout ça. Et puis, accessoirement, j'ai relancé aujourd'hui La Voix de Guillaume, mon blog audio, un podcast que vous pouvez retrouver dans votre app de podcast. Je vais vous raconter des choses un peu plus perso, ce ne sera pas lié à la tech, ou pas vraiment en tout cas, mais vous pouvez me retrouver donc en cherchant La Voix de Guillaume. Il y a quelques petits soucis, là j'ai des personnes qui me disent qu'ils n'ont pas les nouveaux épisodes, donc je pense que l'épisode a trop vieilli, tu vois, peut-être qu'il avait un joint avec du métal liquide et qu'il a été trop tenu à la verticale dans le temps, et qu'il lui faut un petit peu se remettre à l'horizontale et être rafistolé. En tout cas, allez jeter une oreille, allez vous abonner. Bien évidemment, abonnez-vous à Tech Café si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous également sur Discord, techcafé.fr/discord, pour discuter entre vous et avec nous. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour ne pas entretenir le triangle de l'inaction. Et sinon, rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.